Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8 heures pile sur les ondes de Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce, jusqu'à 10h30 exceptionnellement. Vous en avez l'habitude depuis désormais plus de 18 ans, le créneau habituel est 8h-10h, et vous le savez, quand il y a des priorités, des actualités, avec une vraie temporalité, on se permet d'utiliser le créneau extensible, à savoir celui de 10h à 10h30. Avant de vous présenter le sommaire, évidemment, je vous souhaite à tous la bienvenue sur les ondes du 88.4, auditrices, auditeurs. On rappelle qu'on est audible sur le www.radiogalère.org, et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C, évidemment la bande FM, le 88.4. Antonio micro accompagné évidemment de Christian et de Richard, le trio qui officie depuis quelques années. On salue le retour de notre cher Christian qui nous rejoint après quelques semaines d'absence. Avant de les saluer, je vais vous présenter le sommaire rapidement de l'émission. Nous avons déjà dans nos locaux, on va parler de la réquisition à Marseille avec Paola qui représente la France Insoumise et Julien du collectif Mamba. On va parler de réquisition, vous verrez, notamment d'expulsion. On va parler de Benoît Payan. Ça, c'est le dossier dans 3-4 minutes, 8h05, 8h40 sur les ondes de Radio Galère. 8h45, 9h25. Fabrice Aubert, notre déconomiste, qui nous parlera avec une trame toujours, vous le savez, revendicative, extrêmement polémiste. Il va nous parler de l'Allemagne comme maillon faible de l'Union européenne. Voilà, vous connaissez son ton, engagé citoyen. 9h30, 10h, le volet culture, nous recevrons une artiste, chanteuse et fondatrice du Chant du Voisin qui nous parlera des programmations musicales, de concerts et d'albums. Et puis donc, on conclura notre magazine d'actualité de 10h à 10h30 avec le docteur Pascal André, l'infirmière Imane Marifi et Amina Mansouri en tant que travailleuse sociale. Ils sont des témoins soignants à Gaza. Ils vont nous parler de la grève de la faim qu'ils ont démarrée depuis lundi avec un jeune solidaire itinérant dans plusieurs villes de l'Europe, dont Bruxelles, mais surtout ça démarre à Marseille, et ce depuis 48 heures. Ils vont nous parler évidemment de tout ce qui se passe à Gaza et de leur émoi qui est colossal. Voilà, ça c'est le menu sur les ondes de Radio Galère. Bonjour Christian, bonjour Richard.
Alors auditeurs, auditrices, bonjour. Christian, bienvenue depuis le temps, et nos invités, bien sûr, qui sont déjà présents. Alors aujourd'hui, vous avez 3 journées mondiales qui vont vous être présentées. C'est la journée de l'autisme, donc c'est une maladie, et c'est sa journée aujourd'hui, donc pensez à eux qui sont dans des situations plutôt difficiles par la maladie. Deuxième journée, vous avez la journée de la jeunesse et du livre. Donc,
très bien.
Faites lire les enfants, c'est très important. Voilà. Donc c'est. Et puis alors pour les enfants, la troisième journée est encore mieux. C'est la journée de la bataille des oreillers et des peluchons. Voilà. Je savais pas qu'il y avait une journée dédiée, mais alors tous les enfants ce soir, allez-y, mettez des plumes partout. Je sais pas s'il y a encore quelques plumes dans les coussins, mais bon.
Les parents vont pas être contents.
Si c'est le cas, allez-y. Et les parents, ben participez avec eux. Voilà les 3 journées du jour. Choisissez celle qui vous plaira le plus.
Merci en tout cas, Richard, d'avoir évoqué ces 3 journées. En effet, que ce soit évidemment l'autisme qui est quelque chose d'important et qui se soigne de mieux en mieux. On rappelle aussi que des enfants arrivent à s'émanciper, arrivent à s'épanouir, arrivent notamment à réussir dans la vie. Je parle pas de réussite économique, je parle de réussite humaine. Donc ça fonctionne bien et tous les professionnels de la santé sont là, les accompagnants aussi, qui font un travail remarquable. Donc c'est important de le rappeler parce qu'évidemment il y a de l'espoir, n'est-ce pas mon cher Christian ?
Oui, bonjour aux auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour à l'équipe et bonjour à nos intervenants. Ce pourrait être aussi la journée de la réquisition, puisqu'ils vont nous parler du mal logement, des sans-abri, des gens qui dorment dans la rue, et on en voit de plus en plus, malheureusement, dans notre ville, mais dans d'autres villes de France aussi. Donc c'est un sujet très important et nous sommes heureux de les accueillir aujourd'hui, ce matin.
Exactement. N'hésite pas à parler un peu plus fort, mon cher Christian.
Monte le son de mon micro, allez.
Exactement. Pour éviter justement que
ça m'évitera de me fatiguer, ma voix.
Exactement. Non, j'évite de le monter, puisque sinon, on est embêté pour l'enregistrement derrière.
Je vais faire un effort.
Justement, la transition est faite, mon cher Christian, avec nos invités du jour. Donc, on va vous saluer, évidemment. Paola est avec nous sur les ondes du 81.4. Et Julien. Bonjour, Paola.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Et bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Voilà. On va vous présenter alors rapidement, même si évidemment on connaît l'institution de la LFI, mais rappelez vos fonctions. Julien Lemamba, qu'on a déjà reçu, le collectif Mamba. Dis-nous un petit mot et puis ensuite on fera évidemment la connexion par rapport à ce collectif sur la réquisition.
Eh bien, le Mamba, c'est un collectif qui a une bonne dizaine d'années et qui s'est créé à une époque où il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient en migration sur Marseille. Et le collectif Mamba a eu une action très importante pour soutenir ces personnes-là, et notamment vis-à-vis du logement, que ce soit par l'ouverture tout simplement de logements pour abriter ces personnes ou autres. Et donc, nous, le Mamba, on est un collectif donc qui voulons vraiment défendre en premier lieu les personnes qui n'ont pas les bons papiers, et le logement est quelque chose de très important pour nous à cet égard.
Et on rappelle évidemment que le logement, enfin vous n'avez pas attendu malheureusement le drame du 5 novembre à l'époque de la rue d'Aumône, ça date d'il y a, c'est plus ancien que ça, et autant on parle du logement sur la réquisition, mais on parle aussi d'insalubrité, de logements indécents et qui parfois sont déclencheurs de précarité sociale, humaine, et parfois plus que ça, donc c'est important de le rappeler. Paola, qui représente aujourd'hui la LFI, dites-nous un petit peu justement cette connexion avec ce collectif, comment vous agissez par rapport à la France Insoumise.
Du coup, ce collectif, il s'est créé il y a à peu près 2-3 mois. Il avait été initié par les Verts et ensuite il y a eu les collectifs et associations qui ont rejoint, puis la France Insoumise.
Convergence des forces associatives, ouais.
Ouais, convergence. En fait, c'est ça qui est intéressant vraiment dans le collectif, c'est qu'il y a une convergence à la fois des forces associatives, des forces politiques autour de cette question du logement et de la réquisition qui est complètement... un peu balayé et par la mairie, mais après de manière générale aussi, qui est très méconnue. Et du coup, je pense que c'est un peu ça la force du collectif, d'avoir des personnes de tous bords et de différents types de militantisme aussi, qui fait que nos actions peuvent être intéressantes et avoir un impact.
Oui, c'est vrai que vous dites des personnes de tous bords, et c'est vrai que bon, c'est pas une question d'orientation, c'est que tout le monde devrait prendre ce sujet et d'autres collectivement, sans poser de questions vraiment d'où l'on vient, quoi. Enfin, je pense.
Oui, tu as tout à fait raison, mais moi j'ai vu un peu les chiffres, Paola peut-être.
Julien, c'est le Julien.
Voilà, ou Julien, vous nous rappelez les chiffres, je ne sais pas lequel d'eux.
Peu importe. Cas, oui.
Mais c'est vrai moi j'ai constaté qu'il y avait très peu de propriétaires qui possèdent énormément de logements à Marseille et qui, pour des besoins spéculatifs, je suppose, ne les ouvrent pas à la location. Et ça m'a étonné parce que je ne connaissais pas ces chiffres et ce serait bien de les rappeler aux auditeurs un peu. Parce que beaucoup de personnes, à mon avis, ignorent ce fait.
Alors justement, on y vient avec les chiffres et évidemment, là, je vous laisse le gré de répondre. On rappelle que le collectif Réquisition a manifesté samedi dernier, donc c'était il y a 4 jours, à la Porte d'Aix, en milieu d'après-midi. Je cite quelques éléments. Pour des milliers de ménages marseillais, les étudiantes et les apprentis, les sans-abri, des mineurs non accompagnés, les conditions de vie sont inhumaines et alarmantes. Voilà les revendications précises. On rappelle qu'il y a une vraie pression immobilière exponentielle, pour rejoindre un petit peu ce qu'évoquait notamment Christian, avec une forte répression. On parle de quand même quasiment un quart, enfin 23% en 2003 des hausses des expulsions. La crise climatique, évidemment, en est un effet collatéral. Le manque de logement, la spéculation, la bétonisation. Il y a beaucoup de choses à dire, Paola, Julien, là-dessus. Julien.
Ouais, c'est vrai que les chiffres on a été voir et c'est important pour nous pour montrer l'ampleur du phénomène. Et du coup, on a même eu des petits quiproquos au début sur combien il y a de logements vides à Marseille.
Oui, ça c'est important.
Et du coup, dans la tribune qui était sortie dans Libération, on parlait de 37 000 logements vides. Ça, c'est les chiffres INSEE qui sont basés sur les recensements. Mais il y a une étude beaucoup plus précise qui a été commandée par la mairie elle-même, qui est l'étude CEREMA sur le logement vacant et qui montre qu'il y a 57 000 logements vides à Marseille. Voilà. 57 000 logements vides, c'est plus que la totalité de tous les logements du 1er, 2e, 3e arrondissement réunis.
Voilà. Pour combien de personnes qui sont à la rue ?
16 000 personnes qui se sont retrouvées une fois dans la rue.
Donc on peut loger tout ce monde, évidemment.
Et peut-être juste pour compléter aussi au niveau national, parce que c'est encore très impressionnant, c'est 3 millions de logements vacants.
3 millions de logements,
3 millions de logements vacants pour 300 000 personnes sans abri, donc 10 fois plus. Donc c'est vraiment un phénomène.
Donc
hyper,
ça pourrait se résoudre, ce problème de personnes qui sont dans la rue, c'est facilement apparemment, si on fait le rapport des chiffres, mais il faut sans compter qu'il y a beaucoup de propriétaires qui utilisent ces logements et ne les laissent vides pour spéculer tout simplement.
Oui, bah, c'est
est-ce
ça.
Que c'est le cas, est-ce que c'est vrai? Peut-être c'est faux ce que je veux dire.
Non, bah, en fait, c'était un point quoi, sur lequel on voulait insister par rapport à cette manifestation réquisition. C'est à la fois de dire effectivement que la réquisition, c'est un effet levier pour répondre au mal logement, parce que tout simplement, ça libère des logements vides. Mais aussi, la réquisition en tant que telle, c'est un signal politique fort qu'on envoie aux propriétaires, qui est de dire, en fait, maintenant, c'est pas possible, dans la situation actuelle, qui est hyper urgente par rapport au logement, de juste laisser des logements vides pendant un an, deux ans, sous prétexte de vouloir laisser spéculer, sous prétexte parce que j'ai pas l'argent pour faire les travaux, ce qui est le cas pour des petits propriétaires, mais pas pour d'autres, sous prétexte de, oui, là, on a pris du retard dans les travaux de rénovation, et puis là, c'est une mise en péril, etc. Enfin, y a beaucoup d'excuses qui nous ont été données dans la réponse à Payan, mais je laisserai Julien compléter là-dessus. Mais en tout cas, on voulait insister vraiment sur le côté de oui, c'est une réponse au mal logement, mais c'est aussi la réquisition un moyen de pointer le fait qu'il y a de la spéculation à Marseille, qu'il y a 10% des ménages qui concentrent 60% de la propriété.
Voilà, et qu'il y a 10% des ménages, ouais, c'est un chiffre.
Ouais. Éloquent.
C'est pas énorme, c'est peu par rapport à.
Oui, par rapport à tout ce qu'ils possèdent.
Tout ce qu'ils possèdent, c'est ça.
Et un mot également, vous allez évidemment le décrypter, parce que, alors nous on le sait parce qu'on a bossé les dossiers et entre guillemets on est un petit peu dans le milieu, mais beaucoup ignorent en fait qu'il y a une loi qui s'appelle la loi réquisition et qui n'est pas appliquée.
Il y en a trois.
Exactement.
Oui, c'est pas les lois qui manquent, c'est ça.
Et il y en a trois justement, Julien. Parlons-nous de ce qui devrait. Alors on sait que l'application de la loi sur le territoire hexagonal est quand même parfois difficilement applicable. Toujours est-il qu'on doit l'utiliser, puisque quand c'est le cas contraire, on n'a pas de mal à ce que les forces de police utilisent la loi justement. Donc parlez-nous de ces lois-là, et justement pour, j'allais dire, éclairer nos auditeurs qui ignorent la chose.
Ouais, je vais juste revenir une seconde sur quels sont ces logements vides, etc. Pourquoi ils sont vides, etc. Il y a des cas qu'on voit qui sont emblématiques, par exemple rue de la République, et clairement où c'est des fonds de pension américains qui rachètent et qui qui vont pas très très vite, on va dire, pour les remettre à leur usage.
Et ça va pas s'arranger avec le gouvernement américain actuel, à mon avis.
Mais en fait, voilà, c'est aussi l'objet de la lettre de réponse qu'on a fait aussi à Payan, parce que on nous enfume un peu en nous disant le logement vacant. Alors en fait, il fait le logement vide de moins de deux ans pour
Julien,
lui.
Parlons-nous de cette lettre là. Ouais. Il nous reste 20 minutes et c'est important, 25 minutes d'en parler pour que les auditeurs comprennent aussi qu'une lettre a été adressée, que Benoît Payan a répondu sur 4 pages. Alors on aurait dit une dissertation, mais voilà, pour avoir un peu les éléments, et ensuite vous développez ce que vous souhaitez, évidemment.
Du coup, je vais raccrocher avec les lois dont tu me posais la question tout à l'heure. C'est qu'effectivement, donc il y a deux lois de réquisition qui sont donc une ordonnance de 1945, puis une loi qui a été faite en 1998 pour que le droit au logement puisse être effectif. Et en fait, donc ces deux-là, c'est le préfet qui doit ordonner la réquisition. Mais il y a aussi le maire qui peut utiliser ses pouvoirs de police municipale pour réquisitionner un bâtiment. Et ces pouvoirs de police municipale ne sont pas spécifiques du logement, mais il peut le faire. D'autres l'ont fait. Des fois, ça se fait casser en justice administrative, mais ça ne signifie pas expulsion derrière. Et voilà. C'est un signal qu'il pourrait faire lui aussi. Et c'était l'objet de la réponse à la lettre où il nous explique que le logement vacant à Marseille, en gros, ce n'est pas un problème et qu'ils en font bien assez.
Peut-être juste pour compléter sur les lois, de dire que dans ces lois-là, la réquisition, elle est cadrée. C'est-à-dire que, je ne sais plus sur laquelle, mais il y en a une qui dit qu'effectivement, le propriétaire a 3 mois pour trouver un locataire. Il y en a une autre, enfin, dans l'ensemble des lois, surtout celle adressée au préfet, il y a une indemnisation des propriétaires. Donc, je pense qu'il y a un imaginaire derrière la réquisition de oh là là, on va aller chasser les propriétaires,
exact,
et leur voler leur logement.
Fait.
Alors qu'en fait, bon, c'est quand même cadré. Et
d'ailleurs,
c'est dans un cas d'urgence.
Tu m'excuses, Paola, c'est intéressant ce que tu dis. Je me fais aussi un peu le relais, puisque c'est les dossiers que nous, on a lancés auprès de notre entourage associatif et autres. Et on avait ces questions-là, c'est que souvent, volontairement aussi, ils freinent les travaux de rénovation. On parle du bilan énergétique, enfin, vous le savez maintenant avec les DPE. Donc du coup, ils disent, on n'est plus dans les normes, donc on va attendre. Alors, on se dit aussi qu'un propriétaire, normalement, il a quand même vocation à louer. Enfin, je veux dire, c'est son intérêt aussi. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Et évidemment, la principale victime, ben, c'est celui qui ne peut pas se loger. Donc humainement, c'est ce qui est problématique.
Oui, tout à fait. Et c'est voilà, un peu une réflexion sur la propriété de manière générale, où c'est pas parce que quelque chose est à toi que t'en fais ce que tu veux. Je veux dire, t'as une voiture, tu respectes le code de la route, t'as de l'argent, tu payes des impôts, bah t'as un logement, tu le loues. C'est pas... c'est pas si révolutionnaire que ça, quoi. Et d'ailleurs, juste historiquement, quand on regarde les réquisitions qui ont eu lieu, pour rappel, bon, c'est Jacques Chirac, c'est De Gaulle, c'est pas non plus des extrémistes radicaux de gauche, quoi.
C'est pas la France insoumise, vous voulez dire.
Pour l'instant.
Du coup, ouais, non, mais c'est intéressant. C'est, y a la deuxième loi, les précisions qu'elle parlait, la loi de 98, là, c'est la réquisition incattributaire. Ça ne peut être appliqué que sur les logements vacants dont sont propriétaires les personnes morales, donc les entreprises. À l'exclusion même des SCI familiales. Donc c'est vraiment les logements vacants privés détenus par des grosses boîtes ou des fonds de pension, etc. Ouais, qui peuvent être, qui sont visés par cette loi.
Dans la rue de la République, par exemple, à Marseille.
Il y en a quelques-uns.
Par exemple, si on veut donner un bel exemple.
Mais effectivement, pour compléter ce que disait Paola, nous, au Mamba, on n'est pas que juste sur l'application de la loi, rien que la loi, etc. Mais on trouve ces lois de réquisition un outil assez intéressant, justement, parce qu'effectivement, ça remet en cause l'absolue primauté de la propriété privée, et que du coup, c'est aussi pour ça, je pense, c'est clairement pour ça que c'est pas utilisé, parce que c'est un signal, voilà, que nous, on aimerait bien voir, mais qu'il a pas envie de donner, en tout cas, Payan, et encore moins le gouvernement à l'heure actuelle, ont pas envie de donner ce signal-là. Et que d'un autre côté, quand on y touche à cette propriété privée, notamment vis-à-vis du logement, y a eu les lois Casbarian-Berger, et donc c'est des personnes qui sont expulsées par la force criminalisée, qui finissent au pénal, et ça a une actualité toute particulière pour nous, puisque ça touche des gens, et même cet après-midi, il y a des gens qui vont passer au tribunal pour des faits comme ça, et donc ça arrive tout le temps quand on y touche, et la réponse en face, elle est violente. Alors qu'en même temps, le premier délinquant, celui qui ne respecte pas la loi sur l'hébergement d'urgence, etc., c'est l'État. C'est lui qui est délinquant. Et voilà. La loi n'est pas tout, mais c'est un outil intéressant.
Alors juste, c'est une association, un mouvement qui existe depuis 10 ans. Quelle est l'évolution que tu vois depuis 10 ans ? Est-ce que ça a augmenté au niveau des personnes mal logées ou est-ce que ça s'est un petit peu amélioré ou c'est pas du tout ? Donc depuis 10 ans, que s'est-il passé pour ce type de...
Alors je suis pas la meilleure personne pour te répondre parce que moi, Mamba, je suis que depuis un an. Okay. Mais je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ça, mais non, la situation, elle est pas bonne, surtout dans le contexte clair. Actuel. Où, voilà, après, là...
Parce que quand on lit la lettre de Payan que j'ai lue, moi aussi, lui, il dit, on a fait des efforts, qui sont tout petits, on va dire. Hein. Mais il faut compter 10 ans. Voilà ce qu'il dit à peu près dans son courrier, si j'ai à peu près lu. Alors qu'il y a urgence, voilà.
Oui, il dit effectivement ça, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il fait tout un exposé de ce que fait la mairie, etc. Bon, c'est chouette, il y a des choses qui se passent, tant mieux. C'est pas parce qu'il y a de la rénovation urbaine et qu'il y a un plan contre l'habitat dégradé que du coup, on va faire quoi ? La réquisition dans 10 ans ? On va attendre que ça se termine parce que là, selon les élus qui avaient répondu à Mars Actu, on est dans le creux de la vague, donc c'est pour ça qu'on n'a pas assez de logements. Et alors, c'est pas grave. Si on est dans le creux de la vague, on va pas faire attendre les gens dans la rue pendant 10 ans. On peut quand même appliquer la loi réquisition maintenant, dès maintenant. Alors après, ce qu'on nous répond aussi, c'est que c'est long, c'est compliqué, c'est chronophage. Mais bon, rénover la rénovation urbaine aussi, c'est long et c'est cher. Rénover l'habitat dégradé du centre-ville aussi.
Il faut peut-être démarrer à un moment donné aussi.
C'est ça, il y a une volonté politique pour le faire. Donc il y a un moment, il y a aussi une question de volonté politique. Nous, c'est ce qu'on essaye d'imposer avec un rapport de force qui est hyper intéressant pour le maire. Donc au moins, s'il pouvait nous répondre et nous recevoir, ce serait intéressant pour lui. Dans le collectif, il y a des associations, il y a des mouvements politiques, c'est de tous bords. Nous, on est ouverts à l'aider à mettre en place ce rapport de force qui, comme l'a dit Julien, est aussi face à l'État. Parce que c'est vrai que pour la réquisition, il y a besoin de l'État, parce que les indemnités, normalement, elles sont aussi payées par l'État. Donc voilà, il y a un moment, il y a aussi ça qui se joue. Mais cette réponse de « oui, c'est long, ça prend du temps », et puis là, on a déjà mis en place des choses qui vont être prêtes dans 10 ans, c'est à côté, quoi. L'un n'empêche pas l'autre,
ouais,
en fait.
Puis, en vrai,
je t'en prie, Julien, et ensuite... Quel est quand même votre ressenti sur cette lettre-là, parce que on a l'impression qu'il essaye de broder, on lit les 4 pages. Quel est votre ressenti, parce que malgré tout, il a répondu. Alors je dis.
Ouais, il a répondu. Il a répondu en disant que en gros, c'était pas un problème et que et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, dans cette lettre-là, il dit oui, la réquisition. Chacun qui s'est penché dessus, c'est long, chronophage, onéreux. C'est bizarre parce que dans le programme du printemps marseillais, avant qu'il soit élu, C'est son programme. Il y a marqué la voie la plus facile est la réquisition de logements vacants.
C'est marqué noir sur blanc. C'est important de le rappeler, Julien.
C'est marqué noir sur blanc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je ne sais pas. Et puisqu'on parlait des gauchistes tout à l'heure, du général de Gaulle et de Chirac, il y a une autre organisation de gauchistes qui dit que la réquisition, ce n'est pas quand même totalement déconnant. C'est la Cour des comptes qui disait.
On est d'accord, voilà. C'est du second degré, auditeur, voilà. Auditrice. La Cour des comptes, on n'est pas sûr qu'elle soit bien à gauche.
Voilà. Mais bon. Voilà. Merci.
En tout cas pour le coup, elle vous est favorable au final.
Elle mentionne, que c'est désastreux la façon dont est géré l'hébergement d'urgence, et particulièrement vis-à-vis des nuitées hôtelières, qui sont complètement inadaptées, où on met des familles là-dedans pendant 2, 3 ans, 4 ans, avec des enfants, dans des conditions vraiment dégueulasses. Et que la réquisition, c'est un outil aussi valable pour résoudre ça.
Et c'est important de le rappeler. Juste un mot également, 8h21 sur les ondes de Radio Galère. On est toujours avec le collectif Réquisition. Il nous reste une petite vingtaine de minutes et on en profite, évidemment. On parle de cette convergence justement des forces associatives, et c'est ce qui fait la force, en tout cas, au sein de ce collectif. Tout à l'heure, Paola évoquait les différentes structures qui sont avec vous, qui vous soutiennent et qui permettent justement cette convergence. Il y a eu une manifestation la semaine dernière, donc samedi dernier. Là, aujourd'hui, on le sait, il y a différents assos. Alors, on aura l'occasion de peut-être l'évoquer, mais quelles sont les suites à donner? Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir au-delà de ces lettres qui restent presque sans suite? Comment vous voyez un petit peu les choses?
Déjà, peut-être deux mots sur la manifestation, où nous, quand même, était super contents. On était plusieurs centaines à manifester dans la rue. Il y avait une... On a décidé, du coup, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, de faire un certain trajet, notamment en passant par la rue de la République, et donc en affichant avec des signes rouges local vide, réquisition, en mettant aussi des collages, etc. Il y avait vraiment une volonté de visibiliser, et c'est assez hallucinant, quand on marche dans la rue de la République, on se rend compte il y en a un.
Que tout est vide, pour
voilà. Donc il y avait une volonté visuelle de dire, mais regardez autour de vous, c'est assez fou. Et du coup, ça a été quand même un succès à ce niveau-là. Je pense que, je laisserai Julien compléter, mais nous, ça nous a donné quand même de la force pour continuer, encore une fois, parce qu'on se dit, c'est pas tous les jours qu'on arrive à mettre ensemble plusieurs forces politiques, plusieurs types de collectifs. Pour la suite, pour être honnête, on s'est dit tout simplement, on a une réunion prévue dans les prochaines semaines et on va en discuter. Je pense qu'il y a d'abord une volonté au moins d'avoir des retours sur les demandes qu'on a fait à Benoît Payan. On n'en a pas trop parlé, mais on a aussi une demande d'information. On aimerait bien avoir plus d'informations, des données, parce qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2023, l'étude CEREMA, qui déjà fait un premier état des lieux de la vacance. Mais en fait, il manque plein de précisions sur, comme disait Julien,
l'état. On peut parler de la vacance, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on entend souvent la vacance locative, la carence locative pour certains. Justement, pour décrypter un petit peu, pour nos auditrices et auditeurs, Paola et Julien, en quoi il y a ce paramètre de la vacance, parlez-nous de ça.
Ouais, Julien, est-ce que tu veux...
ça c'est les trucs que répondait Payan. Encore une fois, on n'est pas à attendre que des réponses de Payan, parce que sinon, on va rester chez nous. Mais du coup, la vacance, elle est multiple. Il y a la vacance privée, il y a la vacance publique. Donc lui, Payan, lui, dit que ce qui a moins de 2 ans, c'est la rotation locative naturelle. Il appelle ça interstitielle.
Exactement, donc, c'est le terme que vous avez repris, vous, en disant...
ça me paraît pas normal qu'on dise interstitielle. On parle de 37 000 logements vides depuis moins de 2 ans et 20 000 depuis plus de 2 ans.
Donc on est à 57, le fameux
chiffre.
Donc
on est à 57 000.
Édifiant.
Mais quand on parle de spéculation, il y a aussi, le truc du locatif pour vacancier. Je veux dire, il y a beaucoup de propriétaires qui, finalement...
Alors on le voit avec le Airbnb.
Qui mettent plus leur logement en location de longue durée, tout simplement pour profiter de la manne touristique qui leur apporte finalement beaucoup plus que la location de longue durée. Marseille est devenue une ville attractive, et tant mieux pour le monde entier, parce que tout le monde vient à Marseille maintenant. C'est une problématique qui se pose aussi bien à Marseille, mais à d'autres villes aussi qui sont dans le même type.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand tu croises les deux, d'ailleurs le même organisme qui a fait l'étude sur les logements vacants à Marseille, donc le CEREMA, en a fait une autre sur les meublés touristiques. Et quand tu croises un peu les chiffres, c'est par exemple, tu te rends compte de choses, dans le deuxième arrondissement, il y a 19% de logements vacants, et il y en a 9% qui sont des meublés touristiques, donc des Airbnb. Et du coup, tu additionnes et tu vois qu'en fait, tu as un tiers des logements qui sont confisqués aux habitants.
Alors, pour défendre un peu le gouvernement, enfin, ou la ville, je sais pas qui a pris cela. Les deux, peut-être. On a diminué le temps de location pour location touristique. C'est déjà
pour le fameux Airbnb, voilà, votre avis là-dessus, d'ailleurs.
Voilà, c'est déjà un pas, mais est-ce que ça a permis de remettre des appartements en location de longue durée, cette loi qui a été faite, hein, qui est appliquée.
Oui, c'est plutôt une protection qui a été faite pour le secteur du tourisme, hein, je pense.
Parce aussi, que les hôteliers, c'est intéressant ce que tu dis, Richard.
C'est pour défendre les hôteliers, c'est ce que tu veux dire, Richard, ben, plutôt que les gens qui n'ont pas d'un...
Ça n'a, je pense, aucun rapport avec le mal logement, hein, je veux dire. C'est parce que les hôteliers se plaignaient d'avoir une concurrence un petit peu déloyale, je pense. Enfin, je ne sais pas. Alors, au-delà de Marseille, est-ce que dans d'autres villes de France ou dans d'autres régions... Il y a un système de réquisition qui se fait, parce que je pense que le mal logement, il n'est pas qu'ici. Hein. Enfin,
il est mondial. Il est mondial, le mal logement.
Hein. Non, mais on va parler déjà de la France, déjà pas mal.
Il y a d'autres villes qui se bougent sur la réquisition. On les connaît pas bien, mais je pense que voilà, il y a un enjeu. C'est aussi pour ça que le collectif au début a publié ce truc dans Libération, c'est-à-dire de mettre ensemble les villes qui se bougent un peu sur la vacance. Grenoble a été particulièrement active, je sais. Il y en a d'autres. Et il y a des procès qui tombent en disant mais quand la mairie a réquisitionné, faut faire payer l'État parce que c'est lui qui aurait dû prendre en charge l'hébergement des personnes que
ça c'est souvent le problème aussi, Julien, c'est-à-dire que la mairie estime que ses pouvoirs entre guillemets ne sont pas
sur le logement, tout le monde se renvoie la balle.
Exactement, ils sont pas extensibles et surtout qu'au final ce n'est pas de leur ressort. Au bout du compte, on le rappelle, le logement pose un vrai problème et on le rappelle que la victime, c'est celui qui n'accède pas au logement, c'est celui qui... Et parfois, quand il accède au logement, c'est dans des conditions
je devrais dire, indécentes et inhumaines. Pas que les victimes, mais c'est aussi la société qui empathie, hein, excusez-moi. Mais quand il y a du mal logement, il y a du mal-être, et quand il y a du mal-être, ça se répercute sur la totalité de la population. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des organismes sociaux qui aident, etc. Bon, sinon...
Paola qui a levé le doigt.
Oui, peut-être pour compléter.
Réponse de Paola.
Juste sur ce qu'a dit Julien. Il y a un réseau en fait, qui s'appelle Agir contre la vacance, qui est au niveau national et dans lequel il y a du coup plusieurs villes qui sont déjà mobilisées. Marseille n'en fait pas encore partie.
Ils n'ont pas fait la demande.
Voilà.
Volontairement peut-être.
Ils ont oublié, je ne sais pas, ils dormaient.
En tout cas, dans ce réseau-là, il y a une feuille de route pour la vacance, il y a des documents qui sont produits, il y a un plaidoyer qui est mené, il y a aussi de la mise en relation entre les différentes villes pour savoir comment, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Donc déjà, ça, c'est un premier pas qui est facile, quoi. Et qui pourrait être intéressant parce qu'à un moment, il faut rentrer dans le concret et voir, vous avez essayé, par exemple, Lyon a un peu plus avancé sur ce sujet, à quoi ils se sont heurtés ? Bon, ils se sont heurtés au fait, par exemple, que l'État ne voulait pas payer. L'État ne voulait pas payer les indemnités. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Si on se mettait ensemble. Pour information, il y a quand même une quarantaine d'associations là, qui se sont mis ensemble, le collectif des associations, pas le collectif réquisition, hein, je parle au niveau national, des associations pour le logement qui se sont mis ensemble pour mettre l'État en justice, qu'ils accusent de non-assistance à personne mal logée. Donc il y a déjà au niveau national un groupe d'associations qui
travaille là-dessus.
C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire. Donc peut-être avoir à faire des liens avec eux, etc. Mais à un moment, il faut mener cette bataille politique, il faut être à plusieurs, il faut faire bouger les lignes et les réseaux comme ça, la mise en relation, c'est un premier pas.
Quand on parle de mal logement...
Oui, Christian, et ensuite une réaction, je t'en prie, vas-y.
Oui, on parle aussi de construction d'habitation. Bon, on voit comme il y a des communes, par exemple, qui ne respectent pas le quota pour les logements sociaux.
J'y viens, Christian. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, ça c'est intéressant, j'y viens.
Et qui payent plutôt l'amende.
Qui préfèrent payer les amendes que de construire des logements sociaux.
Ça aussi, ça fait partie de la problématique du mal logement.
Ouais,
Julien.
C'est une bonne occasion. Enfin, Paola a mentionné ça. Donc, c'est cette association qui attaque spécifiquement l'État sur le non-respect de ses obligations en hébergement d'urgence. On le rappelle. Toute personne a droit à un hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, c'est pas un logement.
C'est une urgence.
On ne peut pas s'en contenter.
C'est pas un logement. D'accord.
Et du coup, nous, par exemple, au Mamba, on serait pour qu'il y ait vraiment. parce que vous avez dit, il y a de multiples facettes, donc qu'il y ait une vraie sécurité sociale du logement, nous, ça nous paraîtrait être une piste intéressante à creuser. Et puis, comme on a parlé des 40 associations, on va citer un peu les autres qui sont dans le collectif Réquisition et nous, avant qu'on
Citez-les, oui,
mais
voilà.
Bon, voilà, je lis en face, mais bon, il y a le collectif des habitants organisés du 3e, ou CHO3, il y a Crampaca, il y a Attaque Marseille, il y a Almamba, nous, il y a Un Centre-Ville pour tous, qui a été très reconnu et très important dans le combat contre le mal-logement à Marseille. Il y a Au Bien Commun PACA, et puis il y a plusieurs partis politiques et groupes, donc d'écolo, LFI, etc. Et l'Assemblée des délogés qui nous a rejoints, donc qui est justement les gens qui ont été délogés par les arrêtés de péril et pas relogés par les pouvoirs publics.
Ils sont dans les hôtels souvent.
Oui, des hôtels, voilà, des solutions pas satisfaisantes en tout cas.
Et peut-être, pour revenir justement quand vous parliez du logement social, donc effectivement à Marseille, c'est criant, il y a 50 000 demandes de logement social en attente, là où il y a aussi un autre point intéressant pour la réquisition, c'est qu'évidemment, il faut construire, il faut répondre à cette demande. Après, on sait qu'à Marseille, c'est un peu au niveau du réchauffement climatique, au niveau du foncier disponible, c'est compliqué. Donc la construction à tout va, ça va être compliqué. Du coup, là aussi, encore une fois, quand on dit contre la bétonisation, appelons la réquisition, c'est très concret, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a du logement vide,
Lutte contre la bétonisation, en quelque sorte, de réquisitionner, puisque ça permet de bétonner encore plus. Voilà,
On
peut le voir aussi comme ça.
Ça soigne tout de prendre les logements vides, ouais.
Ouais.
Beaucoup de choses.
Juste un point, on rappelle qu'on est évidemment toujours en direct sur les ondes de Radio Galère 88.4 avec le collectif Réquisition Marseille, qui nous permet évidemment d'avoir des chiffres éloquents, édifiants. On rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui sont réunies, qui ont été les premiers signataires, on va l'évoquer. Aujourd'hui, on a Paola qui représente la France Insoumise et Julien qui représente le collectif. Alors, je ne sais plus si on dit Mamba ou Almamba.
On dit les deux.
On dit les deux, on est bien
c'est
d'accord.
Bon,
voilà. Sur le logement, il y avait, alors je crois qu'on dit CO3 ou CO...
Oui, CHO3.
On les a cités. CO3,
collectif des habitants organisés du 3e.
Exactement. Et qui auraient dû venir, qui ont essayé de venir, mais qui n'étaient pas disponibles finalement. Attaque Marseille, Un Centre-Ville pour tous, Au Bien Commun PACA, qu'on a déjà reçu à plusieurs... repris sur les zones de galère, Crampaca, puis on a évoqué les organisations politiques, ANC13, LFI, Europe Écologie Les Verts, le groupe écologiste, et Pluriel. Donc voilà, il y a différentes structures.
Deux petits qui se sont ajoutés qui ne sont pas là, c'est Alternative à Marseille et l'Assemblée des délogés, justement.
Voilà, tu fais bien de les rappeler. Parle-nous justement de Stop Expulsion, Go Réquisition, donc fin de la trêve hivernale, évidemment. Application de la loi de réquisition, ça c'était ce qui était lancé. Comment on peut sensibiliser et conscientiser quelque chose qui nous semble complètement légitime et qui pour autant ne l'est pas pour les pouvoirs publics ou la politique mise en place, c'est-à-dire que vous réclamez, on le rappelle, que les logements vides soient réquisitionnés, que les propriétaires jouent le jeu de mettre en accès leur logement. Puisqu'on le rappelle, il y a des personnes qui sont dans la rue, personnes qui sont dans la précarité, et vous le dites si bien, un toit, c'est un droit, Julien.
Et oui, nous, au Mamba, c'est un peu la quatrième campagne qu'on fait pour les réquisitions, et voilà, et quand... À une époque, voilà, les logements, on les crée, on va dire, les copains les créaient.
Un peu plus fort, Julien.
Pardon. Et du coup, oui, c'est important pour nous la réquisition de prendre le logement vide, qu'on arrête les expulsions, de remettre des gens à la rue sans avoir de solution pour eux. Et comme plus qu'ils sont criminalisés, et donc voilà, la réquisition des logements vides, donc on veut plus d'expulsions, surtout quand il n'y a pas de solution derrière, mais dans l'absolu, les expulsions, c'est toujours sale, pas propre, et ça crée des drames, et ça criminalise des gens aussi, et voilà, et donc il faut réquisitionner, que ça soit par la loi ou autre, mais...
Oui, justement, du coup, en parlant de loi, et c'est là où, encore une fois, cette alliance peut être intéressante, asso et politique, c'est que, du coup, à cette manifestation, le député Sébastien Delogu était présent et a pu montrer, du coup, la proposition de loi qu'il a déposée, là, en mars 2025, où l'idée est, justement, de faire en sorte que le pouvoir de réquisition puisse être au maire. Juste pour rappel, comme l'a dit Julien au début, actuellement, le maire, il peut réquisitionner, mais que par arrêté municipal. Donc ça veut dire que dans un certain périmètre, que si jamais l'absence de réquisition entraîne un trouble à l'ordre public, entraîne ce genre de choses. Donc c'est super restreint, quoi. Alors que là, le but, ce serait qu'effectivement, le pouvoir de réquisition dans les mains du maire soit beaucoup plus élargi, comme il l'est actuellement avec le préfet.
On parle des expulsions, mais les gens sont expulsés parce qu'ils ne payent pas leur loyer, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont plus les moyens financiers de payer leur loyer. Alors il y a peut-être aussi un travail à faire à ce niveau-là, parce que finalement, comment ça se fait que des gens qui sont dans une telle misère de ne pas pouvoir payer leur loyer, ça c'est une réflexion aussi à entreprendre, parce qu'ils ne devraient pas se retrouver à la rue et ne pas pouvoir subvenir à lui. Peut-être l'État aussi devrait intervenir à ce niveau-là. C'est une réflexion.
C'est la politique du logement qui est menée. C'est une politique clairement capitaliste. Il n'y a pas de volonté de vouloir loger les gens. On protège justement les gens qui veulent faire de l'argent avec la propriété. Et du coup, il y a un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Donc le fondateur du DAL, du droit au logement, qui disait que dans les années 70, les familles, elles prêtaient 10% de leur salaire au logement. Mais ça vous parle ? Moi, effectivement, c'est un temps que je n'ai pas connu, mais ça paraît hallucinant vis-à-vis des réalités qu'on vit nous. J'ai entendu dire ça,
Donc c'est la limitation peut-être des loyers qui devrait être fait. Ça c'est aussi une réflexion qui peut être dans l'air.
La limitation des loyers, à mon avis, ça fait longtemps qu'il doit y avoir une corrélation entre les salaires et les loyers. On voit bien qu'entre les salaires et les loyers, le coût du loyer devient trop important par rapport au salaire. Alors il y a un truc. Alors ça, c'est vrai aussi, bien sûr, pour ce que tu dis. C'est les loyers. Enfin, c'est pas qu'ils sont trop chers, c'est peut-être que tout n'a pas suivi, je sais pas.
Et pendant ce temps-là, il y a, comme disait Paola tout à l'heure, d'autres chiffres, c'est genre en PACA. C'est les logements qui sont propriétaires de 5 biens ou plus possèdent la moitié des logements loués.
5 biens ou plus, donc c'est énorme.
Ils possèdent la moitié des logements. Il y a 80% des logements sur le centre ancien de Marseille qui sont détenus par des multipropriétaires. Donc il y en a qui vont.
Après, c'est important de le rappeler sans faire l'avocat du diable. Et Dieu sait si on a bien compris, évidemment, l'optique qui est menée, la sensibilité humaine, parce que ce qui nous réunit autour de cette table et en direct sur les ondes de Radio Galère pendant près d'une demi-heure, c'est parce qu'évidemment, il y a une dimension humaine et sociale qui fait froid dans le dos. Il faut aussi. Puisque quand j'ai parlé de ce dossier-là dans mon entourage, on nous dit qu'il y a des propriétaires aussi qui ont envie de louer, qui sont des propriétaires, j'allais dire, sains, mais vous avez, qui n'ont pas cette spéculation, qui n'ont pas le volet ultra de la rentabilité, bien que quand on a propriétaire, on souhaite évidemment récupérer et glaner un loyer par la suite.
Ce qui est honorable.
Il n'en demeure pas moins parfois on les. On va les cataloguer, mais d'autres, en tout cas, jouent le jeu et veulent, en tout cas, participer à ce genre de situation aussi. Bien que, on le sait, certains sont dans l'illégalité.
Il y a des propriétaires pour qui c'est pas forcément facile de rénover des logements dégradés, etc. Et là, la mairie a toute une action d'accompagnement et les pouvoirs publics en général font ce qu'il faut. Mais évidemment, tous les propriétaires ne roulent pas sur l'or et il y en a qui ont du mal à retaper leur logement.
Oui, il y en a à Marseille, il faut le rappeler, il y a des petits propriétaires, c'est certain. Après, là encore, nous, là où c'est, tout est un peu lié, on dit justement, avec la réquisition, si jamais dans le cadre des lois, les propriétaires sont indemnisés quand ils remettent. Ils sont aidés à la fois pour faire leurs travaux, aidés à la fois pour. Ils sont payés du coup par l'État pour mettre leur logement en location. Là aussi, est-ce que c'est pas un moyen, la vacance, de lutter contre la dégradation du bâti, parce que le propriétaire qui n'a pas d'argent, juste il va laisser son logement vide et se dégrader,
Comment ça se passe, la réquisition ? C'est réquisitionné, les personnes sont logées. Est-ce qu'ils vont payer un loyer ? Est-ce qu'ils vont pas payer un loyer ? Ça, il faut peut-être l'expliquer et voir un peu comment ça peut se formuler, être entendu raisonnablement, peut-être par les propriétaires. Quelles sont vos visions là-dessus ?
Il nous reste 3 minutes.
3 minutes,
avec vous.
C'est beaucoup, mais c'est peu, non ?
C'est un peu long et c'est un peu technique, donc on va
mais
pas.
Mais à la fois, il faut donner, parce que si j'ai un autre appartement, il est réquisitionné, personne ne paye de loyer, il y a une injustice aussi, on peut le voir aussi.
Alors
comme ça.
C'est des logements déjà qui sont vacants, par exemple, dans la loi de 98, c'est des logements qui sont vacants depuis plus d'un an. Qui sont à des personnes morales, donc des entreprises.
C'est les entreprises, c'est pas les petits propriétaires.
Il y a un loyer qui doit être payé, mais c'est 4,25 € du mètre carré, je crois, donc ça représente un truc assez faible, mais qui peut être utilisé, en fait, qui peut être fait en travaux. Et donc ça veut dire que même réquisitionner des logements vacants pourrait même être bénéfique pour le bien, parce que les personnes qui habiteraient retaperaient tranquillement, avec des petits moyens, retaperaient, le rendraient
vivable. Donc ça peut être gagnant-gagnant, c'est ça ce qu'il faut. Il faut le montrer, ça aussi, cet aspect-là.
Et il faut qu'en plus, la lutte contre la vacance, elle soit inscrite dans la lutte globale, donc, et pour le mal-logement, et contre la dégradation du bâti, contre la bétonisation. Il faut comprendre qu'il ne faut pas le prendre tout seul comme ça. Dans une lutte globale, et tout est un peu lié et intriqué, en fait.
Alors, dans les perspectives des années à venir, vous sentez qu'il peut y avoir quand même une réduction ou un effacement total en 2 minutes, conclure. Je ne crois pas, mais peut-être une réduction envisagée.
Une réduction, en tout cas...
Du nombre de mal logés, hein.
Comme le monde est parti,
l'espoir est perdu.
Voilà, mais en tout cas,
c'est pas très optimiste.
Au collectif réquisition,
on reviendra, on fera 3 ou 4 heures d'émission.
Donc, on s'amuse, on travaille, en tout cas, et on est bien tous ensemble. C'est pas que des collectifs et des associations. Il y a aussi des gens qui sont là à titre individuel et tout ça. Et donc, on est ouvert. Et donc, en tout cas, nous, ça se passe très bien pour l'instant ensemble, dans la pluralité des gens qui viennent. Et c'est chouette. Et en tout cas, on a envie de continuer pour rendre ça très très visible. Et voilà, que tout le monde se prenne en charge ce problème qui touche en fait tout le monde, le logement. C'est pour ça qu'aussi ça crée une dynamique autour.
Très bien. Un dernier mot, Paola, pour conclure.
Ouais, merci beaucoup en tout cas de nous avoir laissé cette antenne. C'était hyper intéressant. Les auditeurs, les auditrices, parlez-en au maximum autour de vous. C'est un sujet qui est vraiment méconnu, qu'il faut que nous, les citoyens, on s'y réapproprie.
Pas méconnu parce qu'on voit des gens dans la rue sans arrêt.
Mais la réquisition en tant que telle, le fait que c'est dans la loi, le fait que ce soit autorisé, tout ça, on pense que ça semble un peu fou. Alors qu'en fait, non, c'est écrit dans la loi, ça a été fait. Donc, faut pas hésiter à en parler parce que c'est pas les pouvoirs publics qui vont le faire pour nous.
Vous avez permis en tout cas d'éclairer ce dossier qui est parfois un dossier obscur. Certains ignoraient ce que représentait la loi réquisition, donc de réquisitionner des logements vacants à destination d'un public. Là aussi, on a ces clichés réducteurs complètement inhumanistes et complètement stupides où on se dit « Ah oui, mais si on les met à disposition, derrière, ça va être squatté, on ne va pas être payé. » Enfin, il y a tous ces éléments-là.
Ce n'est pas le squat, la réquisition. Voilà, il faut bien le signaler.
C'est important, de décrypter cet état de fait afin de comprendre qu'il y a aussi un intérêt commun et qu'au final, tout le monde... c'est dans l'intérêt de tous. Et encore une fois, les pouvoirs publics, en l'occurrence, M. Benoît Payan, maire de Marseille, a un rôle à jouer et il doit le jouer au lieu évidemment de se renvoyer la balle comme les politiciens le font très souvent. Voilà, merci Julien du collectif Mamba, merci Paola de la France Insoumise qui était présent avec nous ce matin sur les ondes de Galère. Pause musicale avec Lady Gaga, Always Remember Us This Way, petite référence, les personnes se reconnaîtront. Et puis juste après, Fabrice Aubert, vous en avez l'habitude, sur les ondes de Radio Galère, premier mercredi de chaque mois, un gros dossier sur l'Allemagne avec son ton engagé, polémiste, d'économiste, Fabrice Aubert, qui nous parlera de l'Allemagne comme le maillon faible de l'Union
l'Allemagne
européenne.
L'Allemagne avait limité les loyers, je parlerai avec Fabrice à un moment donné.
On y reviendra.
Il acquiesce de sa tête, donc c'est un bel exemple à ce niveau-là, donc l'Allemagne. Mais il n'est pas content que je dise ça.
Merci Julien.
Merci à tous les copains qui nous ont aidés pour tout ce qu'on fait.
Ouais. Exactement.
Merci. Merci.
Au plaisir.
Bonne journée.
Au revoir. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale avec Fabrice Aubert. C'était Always Remember Us This Way, Lady Gaga évidemment, chanson iconique et notamment du film A Star Is Born. Voilà, on reprend donc notre émission. On vous rappelle aujourd'hui exceptionnellement, on finira à 10h30. On a poussé le créneau par rapport à l'actualité brûlante. Donc on a donc Fabrice Aubert qui est avec nous, d'économiste pour l'émission Economicus d'Economicus. On le rappelle, il n'est plus accompagné de son cher acolyte qu'on salue
et qu'on embrasse tendrement.
notre cher Fabrice.
J'espère qu'il va revenir.
Aubert, si ouais.
Reviens vite.
Reviens, Le Pen est condamné.
oui, c'est... Je pense qu'il doit être, satisfait de ça d'ailleurs, Dany.
Donc
d'ailleurs,
il devrait revenir, voilà.
Je ne sais pas si c'est suffisant pour
lui qui était pessimiste,
pour qu'il puisse revenir. Et je pense qu'il doit écouter quand même l'émission
écoute,
ou en tout cas le podcast.
On le salue en tout cas.
En tout cas, on le salue. On le rappelle évidemment qu'il est le bienvenu si son engagement militant le rattrape, parce qu'on le sait, sa conscience est extrêmement développée sur ce plan-là. Donc Fabrice Aubert va nous parler pendant près de 30 minutes sur les ondes de Radio Galère de l'Allemagne comme le maillon faible de l'Union européenne, alors qu'on sait qu'a priori, l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France, c'est un moteur.
C'est lui qui fait avancer l'Europe. Hein,
a priori, Angela Merkel à l'époque, en tant que chancelière, en était
jusqu'à présent, du moins,
le fer de lance, mais Fabrice va certainement nous prouver le contraire. Bonjour à toi, enfin, Fabrice.
Il va essayer de nous démontrer le contraire.
Bonjour à tous les animateurs, parce qu'il n'y a pas d'animatrice de Radio Galère.
Et on le regrette.
Pour le moment.
Pas si proche du micro, mon cher Fabrice.
Bonjour aux auditrices et aux
auditeurs. Fabrice, un peu plus loin du micro, s'il te plaît, sinon ouais. Ça pop, voilà.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je ne vous ferai pas du coup de 1er avril, parce que par les temps qui courent, j'en suis plutôt désespéré. Donc, pas
mais tu aurais
avril.
Pu, je m'attendais à ce qu'un invité puisse nous faire un petit poisson d'avril, ou Christian ou Richard autour de cette table. Finalement, il n'en est rien. Peut-être parce qu'on est aspiré par la...
L'an dernier, j'en avais fait un que j'ai fait paraître sur Facebook, qui était un message officiel de la République française annonçant la démission de Macron, de la présidence de la République, disant qu'ayant écouté les Français, machin, tout ça, il prenait en considération qu'il démissionnait et qu'il ne se représentait pas.
Il faisait le général de Gaulle,
tu sais,
en quelque sorte,
avec l'estampillage du truc de la République et tout et tout. Mais ça a bien marché,
Vaste mythe.
Voilà.
Et non, mais... vœux pieux, comme
non,
dirait l'autre.
Ça va arriver. 2026.
Ah, ça va arriver. Avant 2027.
Dans les tuyaux. Oui.
Avant 2027.
Oui.
Bon, a priori, là pour info, puisque tu as évoqué...
Après, est-ce qu'il a le droit de se représenter comme,
oui.
Comme président ?
On l'a traité. On l'a traité, puisque c'est deux mandats consécutifs. Un mandat, c'est 5 ans. S'il démissionne au bout de 4 ans et demi, en plus avec son ami Richard Ferrand, qui a été nommé au président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel validera sa candidature. Il n'y a pas de problème.
Alors, on n'en est pas là. Toujours est-il que Christian évoquait tout à l'heure Le Pen. Volontairement, on n'a pas voulu accentuer là-dessus.
On en parle trop.
On en parle déjà trop. Juste un point par rapport à 2027, puisque, évidemment, Le Pen est pour l'instant évincée. On rappelle qu'elle fait appel, qu'a priori, le calendrier lui serait favorable et que juillet 2026, donc dans 15 mois, permettrait d'avoir le nouveau son de cloche. Et puis, elle irait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, a priori, tambour battant.
Mais c'est là... Pardon.
Non, je finis sur ça, puisque... Et derrière, ça permettrait à Marine Le Pen de pouvoir démarrer sa campagne quasiment les 9 à 10 mois avant. Donc ça, c'était pour la structuration, en tout cas, de la situation. Il n'en demeure pas moins que beaucoup estiment que c'est un leurre. Beaucoup estiment que c'est pas suffisant. Beaucoup diront que c'est une victoire. Enfin, voilà, y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Fabrice, je t'en prie, qui voulait
Non, mais faut imaginer qu'elle a été condamnée sitôt qu'elle... Ah, d'abord... Elle n'a même pas respecté la justice, puisqu'elle est partie avant la fin du délibéré de la condamnation.
Et ça, honnêtement, ça lui c'est totalement irrespectueux.
Enfin, mais imagine que tu fasses ça, toi, tu vas en procès, tu pars avant la fin, mais t'es arrêté aussitôt.
Et on augmente ta peine en plus.
Et imagine que Mélenchon fasse la même chose dans la même situation. Je te dis pas. Bah là, rien. Pas ses crèmes. La juge a même été dénoncée. Il faut savoir qu'elle a reçu des menaces de mort.
Oui, à son domicile. Elle a un garde du corps.
Alors que dans le même temps, c'est pas elle qui a décidé. Ils étaient trois juges. Tu crois que c'est sûr ça ? Il y avait trois. Et c'est les trois qui ont décidé, pas un. C'est pas possible. Donc si tu veux, il y en a au moins deux sur trois qui ont décidé les deux. Parce que faut quand même se rappeler. Il n'y aurait jamais eu procès s'il n'y avait pas eu fraude financière.
On est bien d'accord
4
avec
millions d'euros, pas Pas 100 000 euros.
4 millions de la poche du contribuable.
Mais
faut,
oui,
faut
puisque.
Qui plus
alors,
est, mon cher Christian.
Faut comprendre que c'est 4 millions d'euros qui financent indirectement le RN de manière illégale, puisque les gens qui étaient utilisés sur le budget européen n'étaient pas du tout des assistants parlementaires. C'était des gardes du corps, des chauffeurs, des comptables.
C'est le travail dissimulé. D'ailleurs, la droite, on se rappelle avec François Fillon, en avait fait aussi une sorte de bataille, perdue d'ailleurs. Donc la droite, ces derniers temps, s'est mis quand même au goût du jour sur ces fameux emplois fictifs, les emplois détournés, fait de l'argent détourné. C'est quand même extrêmement colossal, 4 millions d'euros.
Donc, et alors, on voit bien qu'en définitive, pour le système lui-même, Le Pen est utile. Puisque, à peine la condamnation faite, tu as à l'Assemblée nationale le Premier ministre qui dit qu'il n'y a qu'en France qu'on voit des choses pareilles. T'as un député qui prend l'initiative. Alors, d'abord, le ministre de la Justice qui appelle, ou la séparation des pouvoirs, il n'a pas appelé, qui appelle la cour d'appel pour savoir si le procès de Mme Le Pen peut se faire avant 2027 pour lui permettre de se présenter. Si là, tu vois pas la connivence entre le système qui a besoin de Le Pen pour pouvoir se maintenir en place, jouant le rôle d'épouvantail, tu comprends rien. Et après, tu as un député qui dit qu'on va revenir sur la loi Sapin qui frappe d'inéligibilité ceux qui ont fait une fraude financière avérée. La fraude financière est avérée. Les juges, puisqu'ils étaient trois, n'ont fait qu'appliquer la loi. Ils ont pas fait de la politique. Ils ont fait qu'appliquer. Et il y a 50 pages de justification.
On est d'accord avec ça, évidemment, Fabrice. Il n'en demeure pas moins que forcé de constater que certains estiment aussi que, et évidemment, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais c'est pour donner le relais aussi de la pluralité des voix. Certains disent que c'est inadapté, que c'est trop sévère et que c'est surtout un procès politique et pas un procès judiciaire ou pénal.
Non, c'est faux. C'est faux, puisqu'ils ont
appliqué la loi.
Tu as le droit de
le penser, mais certains pensent le contraire.
Mais ce n'est pas une question de penser, c'est une question de lire le droit.
La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Comme quand on dit, voilà, tout simplement. On ne va pas passer l'émission sur Le Pen.
Non, mais il fallait en dire deux mots.
Comme sur les autres médias, mais on a dit un mot et on passe à l'Allemagne. Donc,
il fallait en dire deux mots, évidemment.
Et donc, un député, je vais quand même terminer, a pris l'initiative, il va y avoir une loi modificative de la loi Sapin visant à retirer le processus d'inéligibilité sur, en plus, une loi Sapin qui a été votée par le RN au moment où elle a été présentée, où elle disait que tout élu qui avait fraudé devait être inéligible à vie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Le Pen. Donc, tu vois, je veux dire, quand ils sont pris les mains dans la confiture, eh ben, parce que imagine que ça soit arrivé à quelqu'un d'autre, et alors je vais répéter là aussi.
Allez,
Mélenchon,
il y a
une enquête. Il y a une enquête, mais c'est pas une mise en examen. C'est les deux assistants parlementaires sont entendus à titre de témoins assistés. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. C'est
tout
juste une étude pour vérifier.
On va conclure, Fabrice, parce que on va perdre du temps avec toi.
Donc, je vais commencer l'émission.
J'y vais justement, je fais juste la transition. On parlait de l'Europe, parce que tu parlais du RN, mais c'est aussi l'Europe. On va parler de l'Europe avec donc comme trame l'Allemagne, qui, on le rappelle, tu l'intitules comme le maillon faible de l'Union européenne. On évoque quand même, et on en a l'habitude depuis tant d'années, que l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France, où il y a évidemment beaucoup de... Non, mais tu vas pouvoir... Fabrice me fait des grands gestes, comme quoi il n'est pas... Mais tu vas étayer, évidemment, et argumenter là-dessus. Et c'est important, justement, que tu suscites la curiosité des auditrices et auditeurs de Galère et que tu nous éclaires là-dessus, puisqu'au final, l'Allemagne n'est pas, selon toi, le moteur de l'Union européenne et encore moins, ou en tout cas, à petit niveau... le partenaire économique de la France, puisqu'on le sait, il y a toute une partie d'import-export qui fonctionne très bien, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan des marchandises, sur le plan du fret, sur l'alimentation, mais pas que, aussi sur les boîtes qui fonctionnent, les entreprises, les PME. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, et tu vas nous le prouver dans cette analyse que tu vas nous faire.
Dans ce plaidoyer que tu vas nous faire.
Dans ce plaidoyer pendant près de 20 à 25 minutes.
Démonstration, pas plaidoyer.
Bon, démonstration.
Alors, tu sais que je commence toujours mes émissions par une sentence.
On est habitué.
Une sentence.
C'est déjà le verdict.
Tu vois, voilà. Le champ lexical du droit est bien représenté. Ouais.
Donc, alors, j'en ai deux ce matin, mais qui sont associées ensemble. La première, on ne connaît pas l'auteur, c'est une phrase du peuple. Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Ça me va tout à fait, d'ailleurs.
Ça pourrait être un sujet de philosophie, ça.
Et enfin, une phrase d'Aristote. L'homme, plus il étudie, plus il devient humble, car à mesure qu'il apprend, il découvre l'immensité de son ignorance. Et ça, tu vois, c'est une idée qui...
C'est un vieux classique, ça.
Oui, mais je peux te le dire en connaissance de cause. Je me rends compte que plus j'apprends, plus je découvre, et plus je me rends compte que je ne sais pas.
Que tu ne sais rien, comme voilà. Dirait ce célèbre philosophe.
Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est là où tu vois, par rapport à tout ce que je peux savoir depuis le début de mon évolution en termes de formation et d'éducation, je me rends compte que j'en découvre tous les jours. Et je suis surpris. Ce qui fait que je reste toujours jeune, d'ailleurs.
C'est vrai, ça on peut le constater.
C'est vivifiant.
Il vient en vélo le matin, donc
voilà, c'est, on c'est le rappelle, pour le prouver. Tout à fait.
Confirmé. Alors, l'Allemagne, tu dis, j'explique ça comme le maillon faible. Oui, j'ai voulu provoquer, parce que c'est évident
en
que
tout
l'Allemagne...
cas, c'est le titre que tu as donné à ton émission de ce matin.
C'est pour provoquer.
Évidemment.
Pour provoquer la réflexion. Et je pense qu'on peut le démontrer. Mais... il faut reconnaître aussi aujourd'hui que l'Allemagne, c'est le maillon fort, en apparence, puisque c'est en effet l'Allemagne qui, dans le cas du PIB européen, est la première puissance économique du continent, tant d'ailleurs sur le plan industriel, heureusement, que sur le plan du PIB, que sur le plan du développement économique global de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le premier exportateur de l'Europe, tout ça, je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est l'analyse qui consiste surtout à dire que la France serait le maillon faible. Et si tu veux, je veux montrer toute la thèse sur la France maillon faible, du fait de sa dette, du fait de ses services publics. Je ne vais pas en rajouter.
Et aussi sur le volet industriel, parce que la puissance industrielle de l'Allemagne est avérée. Oui. La France a aussi une industrie qui est plutôt forte, même si elle est en régression
plutôt
sur
faible,
certains secteurs.
Plutôt
faible.
Il n'y a plus rien en France.
Alors, j'y reviens. C'était un secteur qui était plutôt fort et qui est devenu plutôt faible, en effet, avec une vraie régression. Et donc, où l'Allemagne... parce que les mines, on sait que l'existence des mines nombreuses, comme le charbon, le fer, qui ont permis le développement à l'époque de la sidérurgie, on le sait en France... on a une vraie régression, mais on avait quand même des éléments stables et forts à l'époque.
Oui. Mais alors, quand tu te penches, parce que quand j'ai trouvé le titre, je me suis dit quand même, il va falloir que je trouve des éléments historiques qui me permettent de justifier cette approche. Hein. Et alors, quand tu sais que la France... parce que je n'ai pas fait simplement que l'Allemagne, j'ai fait une comparaison France-Allemagne pour comprendre, si tu veux, pour approfondir la compréhension globale. Bon, mais quand tu sais que l'Allemagne, en fait, est née récemment. Elle est née, en fait, l'État allemand. Je ne parle pas de l'Empire austro-hongrois, parce que...
le Reich.
Et du Reich de l'époque, et de Bismarck. Je ne parle pas de ça, parce que, si tu veux, ça, c'est du passé, mais... la création de l'État allemand en tant qu'État...
oui, bah parce qu'il y avait la RFA, la RDA...
c'est récent, c'est récent.
Non.
Ah, juste après, tu...
Avant. C'est 1870. Quand tu sais que nous, notre État, il est né, en termes de République, en 1791, le lendemain de la victoire de Valmy. Et c'est d'ailleurs...
oui, et puis c'est la Révolution française qui avait amené tout ça en 1789.
Mais auparavant, et c'est là où la réflexion doit être menée jusqu'au bout, auparavant, c'était Louis XIV. Louis XIV est créateur de l'État français. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, au lieu de laisser les nobles dans leur... je vais dire dans leur champ, ils ne faisaient pas les champs, mais dans leur château, dans leur contrée, il les a tous rassemblés à la cour, ce qui était un moyen de contrôler les nobles, puisqu'en fait, ils
dépendaient de la cour.
Ils dépendaient de la cour. Ils venaient à la cour pour se montrer. Et c'est l'une des...
pour faire la cour, c'est le cas de le dire.
Voilà. Avec l'étiquette et tout, je ne vous fais pas le dessin. Bon. Mais ça a permis de développer aussi la culture en France. Il y avait les bourses royales qui payaient Molière et tous les autres, hein, plus les châteaux, plus tout ça. Et qui ont permis, et qui sont la base, les bourses royales pour la culture, c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le régime des intermittents du spectacle. Parce que ça renvoie à cette histoire. Tu vois, c'est pas tombé d'un coup. Il y a une histoire et un processus. Mais la caractéristique de la France, c'est que c'est l'État qui crée la nation. Et après, tu as liberté, égalité, fraternité. En Allemagne, c'est une différence. L'État allemand, ce sont les Länders.
C'est une fédération, l'Allemagne, déjà. Absolument. Il faut le rappeler. Voilà.
Voilà. C'est pour ça que je te dis, ce sont les États autour, les régions, les Länders, qui créent l'État.
Comme on a en Espagne les autonomias, les autonomies, alors c'est différent, voilà. Mais il y a cet esprit-là aussi.
Voilà. Mais donc, l'histoire, déjà, est différente. Dans l'histoire de l'Allemagne, et là, il faut y insister très fortement, elle a au début, elle s'industrialise très rapidement parce qu'elle possède ce qu'il faut dans le cadre de la première révolution industrielle. Elle a du charbon et du fer. Donc, elle a des mines. Et il suffit de mettre les travailleurs dans les mines pour extraire le charbon et le fer pour faire de la métallurgie. Et on sait, par exemple, Krupps, c'est l'un des leaders mondiaux de ce secteur du fait de cette histoire. Donc ça, c'est incontestable. Je ne le conteste pas. L'Allemagne a été, en Europe, une des premières, si ce n'est la première puissance économique de l'Europe pendant des décennies.
Jusqu'à présent.
Non, attends, oui, jusqu'à un passé récent, expliquant d'ailleurs les guerres, c'est-à-dire, et notamment la guerre de 70, qui débouche en France sur la Commune, du fait de la défaite, à Sedan notamment, et qui permet à l'Allemagne d'aller jusqu'à Paris, jusqu'aux portes de Paris. Et c'est ça qui débouche sur la Commune en France. Mais après 1914, la Grosse Bertha, c'est pas nous. C'est eux qui avaient les plus gros canons et qui tiraient sur les lignes françaises. Bon, et il y a eu, je crois, 5 ou 6 millions de morts, puisqu'on a appelé ça la Grande Boucherie. Donc l'Allemagne était dominante. Rappelons...
Fabrice, un point, parce que c'est intéressant. Alors, il nous reste encore 20 minutes, mais sur cet aspect-là aussi, est-ce que Angela Merkel, chancelière, et qui était très proche du pouvoir politique français à l'époque. On sait que depuis 2021, ce n'est plus elle, c'est important de le rappeler, c'est Scholz, Olaf Scholz, qui est l'homme d'État allemand et qui d'ailleurs est du PSD, c'est le Parti Social-Démocrate allemand. Oui, mon cher...
Non, c'est plus lui.
Non, mais j'y viens. Ah, depuis 2021, on avait Olaf Scholz, on avait donc on avait Angela Merkel. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être pas la personnalité qui n'est pas crédible ou notoire et que on ralliait l'Allemagne à Merkel et pas à Scholz ou pas à, tu vas m'aider, j'ai perdu le nom actuel du dirigeant allemand.
Je l'ai plus non plus.
Oui, voilà. La preuve, c'est quand même assez révélateur. C'est qu'on ne sait pas qui c'est.
Il marque pas les esprits pour le moment.
Mais non, mais il n'y a pas de gouvernement.
Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et
c'est pour corroborer tes propos.
Mais alors, avant d'en venir là, je veux juste rajouter un truc. Parce que quand j'ai fait ma recherche, j'étais sur Wikipédia, je n'allais pas aller chercher un autre type de site. Il quand même expliquait ceci. L'histoire de l'Allemagne est complexe et varie selon les limites géographiques et historiques dans lesquelles on considère le territoire et l'ethnogèse du peuple allemand en tant qu'État-nation, tel qu'on l'entend en France. L'Allemagne n'existe que depuis 1871. Donc tu vois...
Fabrice, pardon, je m'excuse. Je confirme bien que c'est bien Olaf Scholz qui est le chancelier allemand, le chancelier fédéral allemand. Hein, donc on est
actuel
bien... Ah oui, complètement. Depuis 2021. J'avais un doute. Tu m'as mis le doute, mais là, je viens de le vérifier.
Oui. Et là, ça y est, elle a été battue.
Il est actuellement le chancelier fédéral d'Allemagne.
Ben oui, puisque de fait...
Ouais, mais c'est le temps de la passation.
Voilà.
Il y a une coalition qui est... Il marche par coalition. Voilà.
C'est même pas ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre pour l'instant pour créer un gouvernement.
Exact.
Puisque la recherche du parti, c'est l'AFD, je crois, qui est libéral-droite, est en cours de négociation pour constituer un gouvernement.
Justement, c'est le futur chancelier, donc, qui est Frédéric Merz.
Voilà.
Et qui est a priori une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, parce que c'est la droite allemande qui a remporté, donc il y a un mois, ces législatives anticipées. Mais en effet, à ce jour, on parle de coalition pour gouverner, mais pour l'instant, c'est Scholz. Et c'est donc Frédéric Merz qui va prendre le relais. Je t'en prie, voilà. Fabrice.
Et alors, en plus, tu vois, ça renvoie à l'histoire de l'Allemagne des années 30. Puisque dans le cadre de l'Allemagne des années 30, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'était une coalition de droite avec l'abstention bienveillante du SPD, qui était le Parti social-démocrate allemand, qui a gouverné l'Allemagne dans les années 30, suite à la mise en place de ce qu'on a appelé la République de Weimar, suite à la défaite de 1918.
Ouais, l'entre-deux-guerres, la période...
Voilà, l'entre-deux-guerres. Et cette politique a été une politique d'austérité. Et c'est ça qui a généré jusqu'à 6 millions de chômeurs en Allemagne, notamment dans les Länders, puisqu'on dit Länders en Allemagne, ça veut dire territoire, hein, région, dans les Länders de l'Est, qui étaient justement dominés par les grands propriétaires fonciers. Puisque la différence entre l'Allemagne de l'Est, qui a existé à un moment donné, et l'Allemagne de l'Ouest, c'est que l'Allemagne de l'Ouest, c'est l'industrie, tandis que l'Allemagne de l'Est, c'était paysan.
Et on avait aussi l'industrie quand même automobile qui était quand même extrêmement développée. On parlait de la fameuse voiture du peuple, hein, Volkswagen, qui veut dire voiture du peuple, et qui avait été aussi une sorte d'émancipation sociale, en disant qu'on va se rallier derrière l'Allemagne. Il y avait cet esprit-là, en tout cas, de cohésion sociale entre les Allemands et l'État, ou le fédéralisme allemand.
Alors, Volkswagen, c'est Hitler, hein, qui a créé.
C'est Hitler,
et ouais. La voiture du peuple, c'est ça. Et c'était justement...
Mais c'est justement
et l'objectif du développement de ces années-là, c'était pour concurrencer la puissance... du parti communiste allemand, le DKP, Deutschland Communist Party, qui était très puissant dans ces années-là. Et d'ailleurs, la première chose que fait Hitler, c'est de mettre les communistes hors la loi et les arrêter en nom, parce que c'était
et
eux...
Et les mettre dans les camps d'extermination.
Absolument.
Les camps de concentration, il faut le rappeler.
Au même titre... alors, les Juifs sont venus après.
Au même titre que des Tziganes, d'abord,
voilà,
les
absolument.
Juifs et les homosexuels,
Ils ont d'abord commencé par arrêter les communistes, d'où d'ailleurs le poème de Dachau, qui dit « Ils ont arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien... » Et après, tu as toute la liste, les syndicalistes, et puis à la fin, il termine sur peut-être les Juifs. Il dit quand ils sont venus me chercher, il y avait plus personne pour me défendre. Donc si tu veux l'histoire, et si tu veux l'histoire qui se passe aujourd'hui, c'est là où c'est grave, c'est que ça renvoie aux années 30. Alors je veux maintenant préciser, parce que
il nous reste 15 minutes, Fabrice, voilà, pour parler de l'Allemagne avec Fabrice Aubert.
Pourquoi je dis que l'Allemagne est un maillon faible? Bon, voilà, c'est les 5 dernières minutes de notre épisode sacré. Mais pour expliquer le contenu,
alors,
c'est qu'en fait, quand j'ai dit jusqu'en 1914, il y avait le charbon, les mines, le fer qui permettaient l'industrie allemande,
la sidérurgie.
Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'industrie s'est fait sur d'autres types de matières et de manière de plus en plus importante. Or, le principe est de matière et de matériaux qui n'existaient plus en Allemagne. Ils ont été obligés de fermer les mines de charbon. À l'époque, ils ont commencé à ouvrir des centrales nucléaires pour l'énergie, pour compenser et arrêter la production de charbon. Et puis, Merkel a fait le pari du gaz russe qui n'était pas cher. Et a fermé les centrales nucléaires, a parié sur le gaz russe, d'où les deux gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, dans le cadre d'une coopération d'une entreprise qui était responsable des deux gazoducs et qui était présidée, cette entreprise de Nord Stream, pour le gaz russe, par un Allemand. Donc, si tu veux, le pari qui était fait pour l'industrie allemande, c'est qu'il fallait une énergie pas chère, puisque du fait de sa géographie, l'Allemagne est ce qu'on appelle l'Europe centrale, elle n'a pas de véritable débouché maritime à part Hambourg au nord, et le reste, elle est coincée. Et elle n'a plus, si tu veux, les mines et le charbon nécessaires qui lui permettent de produire une industrie de qualité et compétitive, c'est-à-dire en termes de prix, en vue de pouvoir développer son économie. Donc tout dépendait du gaz russe. Et c'est là où il y a un graphique qui est très clair, qui montre la chute de la production industrielle allemande dans le cadre des conséquences de la guerre en Ukraine et du fait de l'arrêt des livraisons de gaz. Or, sur quoi est fondée la puissance d'une nation au niveau économique ? Son énergie. Si elle n'a pas d'énergie, tu ne peux pas faire d'industrie. Et une énergie à bas prix. Et c'est là où je te fais la comparaison entre l'Allemagne qui dépendait du gaz russe et la France qui, par le nucléaire, ne dépend pas du gaz russe.
Puisque... Alors, un petit bémol là-dessus. Bon, c'est vrai que l'Allemagne dépendait du gaz russe, donc ça a été plus ou moins coupé par la guerre en Ukraine.
Coupé.
Mais voilà. Mais l'Allemagne s'est tournée aussi vers les ressources, disons, écologiques. C'est-à-dire que finalement, elle a développé aussi le parc éolien, les centrales, les panneaux solaires, etc. Et une grande part de son économie, maintenant, fonctionne sur ce système de ressources propres, en quelque sorte.
Fabrice Aubert ne semble pas d'accord avec toi.
Ce que n'a pas fait la France, qui s'est encore retournée vers son passé nucléaire. Et à mon avis, c'est pas vraiment une bonne chose, bien qu'il y ait beaucoup en sens ce phénomène-là, parce qu'on sait que le nucléaire, c'est très, très dangereux.
Alors, on va pas faire un débat sur le nucléaire.
On l'oublie à cause
non,
de la guerre.
Non, parce qu'il nous reste 9 minutes.
On fait pas un débat sur le nucléaire, mais...
C'est pas possible.
On peut pas encenser le nucléaire. Moi, je n'encense pas, en tout cas.
Mais j'ai pas dit que... Moi, je fais le constat. Je fais pas...
C'est un constat, tiens donc.
Le constat, c'est que la France, 80% de son électricité, c'est nucléaire. Et je peux te dire que, en termes de compétitivité, l'électricité en France est la moins chère en Europe. Elle a été plus chère, tu sais pourquoi ?
Parce que les Français... Ça n'empêche pas que c'est inaccessible pour certains.
Les Français, comme Macron, ont baissé culotte devant les Allemands et ont accepté le fait que le prix de l'électricité en France soit indexé sur le prix du gaz. C'est ça qui a fait l'augmentation du prix. C'est pas la production des centrales nucléaires en France qui est maîtrisée là-dessus. On avait le coût de production au kilowattheure le plus faible. Mais c'est parce que nous avons accepté de baisser culotte. Je veux quand même que vous compreniez ceci. Ce qui s'est passé en 45 et pourquoi l'Allemagne s'est développée, c'est par le soutien à bout de bras des États-Unis. Parce que comme l'Allemagne était frontalière de la Russie et du cercle de l'Est, hein, de l'URSS, puisque à l'époque ça s'appelait l'URSS, la Pologne était dans le giron de l'URSS, et la Pologne a une frontière, plus l'Allemagne de l'Est, hein, qui était sous influence de la Russie, soviétique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourgeoisie européenne et internationale, la bourgeoisie financière, a eu peur de ce que le communisme et de ses capacités sociales pouvaient engendrer de dégâts et avancer vers l'Europe de l'Ouest. Donc il a fallu monter une vitrine, et c'est pour ça qu'au-delà des bases militaires de l'OTAN installées en Allemagne de l'Ouest, il y a eu tout un soutien financier de la part des États-Unis. Le fait que l'Allemagne, à la différence de la Première Guerre mondiale, n'a pas payé les dégâts de réparation dus à l'hitlérisme, nous sommes d'accord, hein. Et donc, de fait, ça a permis à l'Allemagne de pouvoir développer son économie, sans avoir à s'occuper de la défense militaire, parce que dans le cadre de la signature du contrat de paix, il était interdit à l'Allemagne de se rééquiper au niveau militaire. Donc, si tu veux... Tout ça, ça a permis à l'Allemagne de se développer et, parce que ça, il faut bien l'avoir en tête aussi, ça a permis à tout le système occidental européen d'apparaître comme étant la meilleure solution, c'est-à-dire le capitalisme libéral, à la fois pour l'efficacité économique et pour les libertés, ce que, évidemment, du côté de l'Est, ça n'existait pas, d'autant plus que l'URSS avait perdu 27 millions de ses... de ses concitoyens durant la guerre patriotique, et que l'économie de l'Est avait été complètement détruite et ravagée par la guerre. Donc il a fallu reconstruire. Nous, on a eu le plan Marshall, rappelons-nous. Et le plan Marshall, c'est bien la matérialisation par des dollars de la reconstruction de l'Europe en vue d'empêcher le communisme d'avancer. Le communisme, entre guillemets. Hein. Bon, faut bien préciser, pour moi, c'est pas du communisme. Mais voilà, c'est pour aller vite. Et dans ce cadre, il faut aussi se rappeler tous les progrès sociaux qui ont été obtenus entre 1945 et 1989. 89, fin du mur de Berlin, chute de l'URSS. Pourquoi ? Parce que comme la bourgeoisie avait peur, toujours, que le modèle soviétique puisse être importé, les négociations sociales en Allemagne étaient permanentes. Et il y avait des conquis sociaux, des acquis sociaux qui se développaient.
Il faut rappeler qu'en Allemagne, les syndicats sont très, très puissants.
Voilà.
Et associés
aux décisions. Ils n'avaient pas besoin de faire grève. Ils négociaient. Ils déposaient un préavis. Il y avait 10 jours, ça discutait et ça signait. Mais parce que le patronat allemand signait par peur que l'idée communiste réémerge dans son pays en souvenir du décapé. Et en France, tu as eu de lourds conflits sociaux, dont mai 68, mais chacun des conflits sociaux débouchait sur des accords de progrès sociaux qui profitaient non seulement à ceux qui avaient lutté, mais à toute la société. Je veux dire, 68, tout le monde en a profité. Nous sommes d'accord ? Bon, donc, ça a fonctionné jusqu'en 89. Mais lorsque l'URSS a implosé, que le mur de Berlin a disparu, le capitalisme a retrouvé toutes ses effluves. On a ouvert la boîte de Pandore. Et là, cite-moi une lutte sociale qui est débouchée sur du progrès. Depuis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le capitalisme montre, en définitive, son vrai visage, qui est celui d'un destructeur des droits sociaux. Et qui se fait partout. Je dis, regarde, les RSA, les gens sont obligés de travailler. Et te dire, hein, parce que faut avoir les chiffres, parce que les chiffres, c'est de la matérialisation. En pourcentage du revenu disponible brut mensuel des ménages par habitant, en 1990, le RSA, c'était 34%. D'accord ? Aujourd'hui, c'est plus que 27%. Donc, en fait, derrière l'apparence, ce qu'on te montre, du fait que le RSA, ça coûte cher, qu'il y en a de plus en plus en nombre et que ça vaut de plus en plus cher, dans la réalité, en relatif par rapport au pouvoir d'achat moyen, ça ne fait que chuter. Et c'est là où d'ailleurs on peut faire une boucle avec l'émission que vous aviez auparavant sur la question du logement. C'est que l'une des raisons pour lesquelles il y a crise du logement, pas simplement en termes de construction, mais surtout des impayés, c'est que l'évolution spéculative immobilière dans notre pays a été 30% plus rapide que celle de l'inflation. Comme les salaires sont plus ou moins indexés sur l'inflation, ça veut dire que pour un ménage pauvre, il a fallu payer 30% de plus. Et ça explique les impayés. Et ça explique qu'après, on fasse des expulsions locatives qui sont la conséquence des violences générées par la spéculation immobilière. Et tout ceci étant la conséquence d'une loi prise à la fin des années 70 où on est passé de l'aide à la pierre. L'aide à la pierre, tu vois, c'est quand tu construis, à l'aide à l'individu, qui est l'individualisation de l'aide au logement. Et en faisant ça, tu fais du libéralisme, mais tu as en fait favorisé l'émergence d'une logique de prix de marché au niveau de la construction.
Comme on en a dit aussi, mais si on revient à l'Allemagne, l'Allemagne a fait quand même aussi des limitations au niveau des loyers.
C'est-à-dire, alors,
elle a bloqué les
tu loyers. As raison.
Ça, par contre, c'est en tout faveur fait. De l'Allemagne.
Tout à fait. L'Allemagne a superficie équivalente lieu d'implantation, un logement en Allemagne à surface équivalente. Hein.
Surface équivalente.
C'est 30% en moins.
30% en moins. Et ça, c'est en faveur de l'Allemagne.
Oui.
Voilà, donc oui. Ça, il faut le rappeler.
Si tu veux, ça, c'est pour le logement en Allemagne, et pour nous, c'est l'électricité.
Oui, voilà, ça, c'est.
Et notamment pour les industriels. Les industriels français, ont un avantage comparatif en termes énergétiques qu'aucun pays au monde n'a.
C'est juste.
Après, je ne discute pas du nucléaire, mais voilà, la matérialisation de ce choix politique, c'est le prix de l'électricité. Et par contre, le prix du logement, comme il est laissé flotter selon les logiques du marché, et je crois que je n'ai jamais vu autant d'agences immobilières pousser dans les centres-villes. Ça se substitue aux magasins de lingerie.
On doit conclure, mon cher Fabrice, 9h26 sur les ondes de Radio Galère. Je te laisse la dernière minute pour conclure ce volet-là qui était extrêmement intéressant. On a peu entendu notre ami Richard, mais bon, on a bien développé autour de nous et parfois on n'est pas obligé de t'interrompre. On l'a fait assez souvent sur cette demi-heure-là. Mais je t'en prie, Fabrice, pour conclure ce.
Alors, je vais lancer une alerte. Parce que ce qui se passe en Allemagne est très grave. J'ai voulu traiter l'Allemagne parce que, si tu veux, en rapport avec la France, c'est un pays qui est très voisin de nous, qui est proche, pas simplement géographiquement, mais historiquement. On a eu 3 guerres avec elle, et il faut s'occuper de l'Allemagne pour comprendre ce qui se passe, hein, et ne pas revivre ce que nous avons déjà vécu. Or, si l'industrie allemande est en crise, et il faut savoir que les industriels allemands n'investissent plus rien en Europe, ils investissent tout aux États-Unis pour contourner les droits de douane qui vont être augmentés par Trump. Donc, tous leurs investissements financiers et industriels partent aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Donc, ça veut dire que l'industrie allemande va continuer à péricliter et à baisser, ce qui explique d'ailleurs la montée de l'extrême droite en Allemagne et le risque qu'ils puissent gagner.
Fabrice, on doit conclure, je m'excuse.
Je finis. Et le risque que tu as, c'est de revivre une guerre, puisque désormais le nouveau gouvernement allemand veut redévelopper une industrie militaire en Allemagne. Et ça, ça renvoie aux logiques qu'a développé Hitler dans les années 30.
Ça, c'est l'Europe qui la pousse
merci,
à faire ça.
Merci Fabrice,
pas.
Merci Christian. On doit vraiment s'arrêter. On a dépassé et on va manquer de temps
derrière. On reviendra derrière. Sur l'Allemagne.
Merci pour cet éclairage, Fabrice Aubert. Sur les ondes de Radio Galère. On rappelle qu'on est évidemment en direct sur les ondes du 88.4. On remercie donc notre invité Fabrice Aubert qui nous a permis de faire un éclairage sur le volet de l'Allemagne comme le maillon faible de l'Union européenne. Tout de suite, c'est la pause musicale avec Lynn, Je pense à vous. La personne se reconnaîtra, c'est une chanson extrêmement douce
c'est
et extrêmement
dédicace, c'est ça
sympathique. Et juste après, Cathy Delolme, artiste pluridisciplinaire, professeur de chant, chef de chœur, qui viendra nous parler de la sortie de différents albums avec le volet hongrois, puisque c'est le volet culture, sur les ondes du 88.4. Tout de suite, pause musicale. Merci Fabrice.
Merci
et au
Fabrice.
Plaisir. Évidemment.
Au revoir.
À très bientôt.
Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois. que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. C'était donc Lynn, je pense à vous, sur les ondes du 88.4. Nous attaquons donc le volet culturel, avec Cathy Delon qui est avec nous. Elle était présente le mois dernier sur les ondes de Radio Galère. Elle était venue accompagnée de Maura pour nous parler notamment de Transphonie qui aura lieu, on aura l'occasion d'en parler à la fin du mois, enfin pour être précis, le mardi 22 avril à l'espace Julien. Mais avant de parler de ça, on va accueillir évidemment Cathy Delolme qui est avec nous, qui est une artiste pluridisciplinaire. Elle est donc chanteuse, chef de chœur, fondatrice du Chant du Voisin. On aura l'occasion d'évoquer cette belle structure qui a été créée il y a plusieurs années. Et elle est avec nous pendant près de 25 minutes, jusqu'à 9h55, 9h56 même, sur les ondes de Radio Galère. Bonjour Cathy Delolme.
Bonjour Anthony, bonjour tout le monde.
Ravi de vous accueillir sur les ondes de Radio Galère, évidemment, toujours en compagnie de Christian, de Richard et d'Anthony. Au micro, on va parler avec vous, Cathy. Alors, de manière plus linéaire et plus ciblée, j'ai dit artiste pluridisciplinaire. Parlez-nous un petit peu de votre ADN artistique. Comment on arrive à identifier artistiquement Cathy Delolme pour que nos auditeurs et auditrices puissent avoir un petit peu l'envers du décor?
Bien, tout simplement, moi je suis avant tout chanteuse et chef de chœur, donc avant tout musicienne, enfin je dirais avant tout, maintenant avant tout, mais ce qui fait qu'on peut me définir comme pluridisciplinaire, c'est que j'ai eu une formation qui était une formation aux beaux-arts, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine quand j'étais jeune, donc j'ai été sensibilisée.
Vous êtes toujours jeune.
Quand j'étais sensibilisée à d'autres formes d'expression artistique, et puis donc plus tardivement, j'ai choisi la musique. La musique est venue à moi par le chant, déjà toute petite. J'adorais chanter. Et c'est en découvrant la musique, la musique vocale et la polyphonie en particulier, que je suis tombée amoureuse. Et notamment lorsque j'ai découvert des polyphonies d'Europe de l'Est, les polyphonies bulgares. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai entendu ces sons-là pour la première fois.
Exactement, parce que quand on pense polyphonie, on ne pense pas vraiment au pays de l'Est, mais c'est bien de faire cet éclairage.
Voilà. Et donc en fait c'est ce qui m'a donné le coup de foudre, et puis après j'ai dans mon parcours je me suis plus particulièrement intéressée à ces polyphonies là. Alors il est vrai que voilà, en 2003 j'ai cofondé cette association Le Chant du Voisin. J'avais déjà une pratique de chef de chœur qui se développait, parce que j'avais envie de monter des ateliers où les gens chantent de manière assez spontanée. J'avais mené des ateliers d'improvisation. J'avais envie de faire sonner ces répertoires-là. Donc, je repiquais les mélodies et les différentes voix sur des enregistrements que je trouvais dans les bibliothèques, etc. Et puis, j'ai commencé à faire des voyages et à aller écouter ces chants-là.
Voyages d'ailleurs.
Ben voilà, la Bulgarie,
qui ont rythmé
la Géorgie.
En fait le parcours artistique, qui ont rythmé aussi vos inspirations, qui ont rythmé ces créations aussi. Hein, c'est ce qui.
Ben, quand on s'intéresse aux musiques traditionnelles, il faut les écouter aussi par par les personnes qui les pratiquent. C'est très important de ne pas il n'y a pas de partition, il n'y a pas une version qui vaut enfin si, il y a différentes versions bien sûr, mais plus on se rapproche des versions sources, plus ensuite on est à même de, voilà, d'en chercher de nouvelles interprétations si on en a envie.
Pourquoi vous avez pourquoi justement avoir choisi le ce répertoire-là des pays de l'Est, c'est un peu...
Et en l'occurrence, la Hongrie, juste après votre réponse, Christian, on aura l'occasion d'écouter un extrait. Il y a trois petits morceaux. Et on va écouter un premier extrait juste après votre réponse. Et on va écouter, vous nous direz le...
Oui, je vous le présenterai.
Voilà.
Pourquoi
est-ce que c'est votre histoire, peut-être?
Non, pas d'histoire familiale, ou en tout cas pas connue, mais c'est quelque chose d'assez intuitif, viscéral, en fait. C'est vraiment ces sonorités-là, ces modes, probablement, voilà, parce que c'est une région du monde à la confluence de différentes influences culturelles. Et je crois que c'est cette richesse qui m'a surprise, c'est aussi le timbre des voix, parce que je suis passionnée par la façon dont les langues, la particularité des langues vient façonner le timbre des voix des humains. Donc effectivement, comme je dis souvent, pour un instrumentiste multi-instrumentiste, changer d'instrument, changer de répertoire, changer d'instrument, c'est toujours enthousiasmant, c'est toujours une gageure, etc. Pour un chanteur, une chanteuse, changer de langue, c'est comme changer d'instrument. Il faut modifier le timbre, il faut travailler la technique vocale dans un certain sens. Et on découvre des facettes de sa voix qui sont
des
nouvelles.
Des sonorités
voilà.
Autres, en quelque
c'est
sorte.
Ça, voilà, c'est ça. Donc ça donne beaucoup de liberté. C'est très, voilà, c'est très stimulant, en fait. Donc, voilà, le répertoire, je dirais, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, ça fait longtemps que ça m'intéresse énormément. Je le développe dans ma pratique de transmission aussi, puisque je suis donc chef de chœur et que l'association Le Chant du Voisin, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, comporte deux chœurs amateurs qui travaillent aussi ce type de répertoire avec moi. Et donc il y a un chœur mixte d'une trentaine de personnes et un chœur de femmes, de 8 femmes. Et donc c'est une circulation permanente entre le travail de création que je mets en place et le travail de transmission qui vient puiser dans ces mêmes répertoires et qui fait que voilà, quand je suis à fond dans une thématique et dans un projet... Voilà, il y a aussi tout un certain nombre de gens qui en profitent autour en le pratiquant
et, vous accompagne,
et qui m'accompagnent. Exactement.
Justement, on y vient.
Voilà,
on va donc évoquer un son, écouter un son.
Tout à fait. Donc, je vous parlerai après du Trio Nota, mais nous allons sortir notre premier album qui sort dans 2 jours, en fait.
Le 4 avril.
Voilà, qui s'appelle Eurem, ce qui veut dire la joie en hongrois. Je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, mais nous allons écouter un morceau qui est un chant traditionnel de Transylvanie que nous avons entendu chanter par Ilona Budai, une chanteuse traditionnelle hongroise, qui s'appelle Kétfaköszöt besütött hold világ. Et c'est une histoire d'amour triste.
Comme il en existe
comme
parfois.
Toutes les histoires
voilà,
d'amour.
Donc, on l'écoute.
Comme beaucoup de chansons d'amour.
On l'écoute et c'est la numéro 6, on est bien d'accord avec ça.
C'est ça, tout à fait.
Kachi.
Két faközött besütött a holdvilág. Az én babám haval fesüli magát. Göndör haját száz felé fújja a szél. Köszönöm babám cseddig szeretél. Nincs édesebb a havasi dinnyén él. Nincs kedvesebb az első szeretőnél. Mert az első igazság második kérdés, sokat kell szenvedni.
Wow. Voilà, vous avez vu que c'est extrêmement captivant.
Dommage que tu aies arrêté. Hein, on était parti là.
Je me dois d'arrêter, alors non pas parce que...
Oui, non, mais je plaisante.
C'est qu'on a encore d'autres morceaux sûr, et qu'il nous reste sûr. Qu'un petit quart d'heure. Le temps passe très vite. Ça fait déjà près de 10 minutes
C'était
qu'on est
très,
déjà
très beau.
À l'antenne.
Merci.
Mais en tout cas, c'est tout simplement captivant et extrêmement, extrêmement... je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette voix. Je pense que c'est oui. ce qui rejaillit souvent dans le volet artistique. C'est l'émotion que ça peut transpirer, que ça peut... rejaillir sur la personne et on est vraiment dans ça.
En tout cas, c'est comme ça que je conçois les répertoires. C'est assez... voilà, il faut que ça me touche. Et puis, il n'y a pas de hasard. Quand la mélodie, quand la mélodie est émouvante, enfin, en tout cas, réveille quelque chose de particulier au niveau émotionnel et qu'on commence à s'attacher à ce qu'elle raconte. Et notamment dans le répertoire hongrois, on est rarement déçu parce que c'est toujours des choses assez profondes, des choses assez même... Il y a un sens du drame qui est assez développé dans la poésie hongroise populaire.
Ça se ressent d'ailleurs dans la voix.
C'est-à-dire que voilà,
sans comprendre, on imagine.
Oui, il y a toujours il y a très souvent l'idée qu'on va magnifier la plainte, en fait. Il y a plein de traditions comme ça, hein, où on chante des lamentations, des complaintes. Chez nous aussi, en France, il y a des complaintes, des traces de complaintes qui nous viennent du Moyen-Âge. Enfin, on a une culture de ça aussi, mais peut-être moins forte. Là, dans le répertoire hongrois, alors je précise que la Hongrie n'est pas une région culturelle dans laquelle on trouve des polyphonies traditionnelles. Là, ce que nous avons fait comme travail avec le trio Nota, qui est donc composé de Mélissa Zantman, Gabriel Varbetian et moi-même.
Qu'on aurait dû recevoir et qui est malade,
on les salue toutes les deux, mais en particulier c'est Gabriel qui doit nous écouter.
Ce n'est que partie remise en tout cas,
tout à fait.
Elle sera la bienvenue sur les ondes de Radio Galère.
Ça sera une bonne occasion de revenir avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Et donc nous avons travaillé, alors pour les mélodies traditionnelles, c'est pour ça que je voulais vous faire écouter ce morceau, par exemple, composer des arrangements nous-mêmes, parce qu'à la base, c'était une monodie, donc pas une seule voix. Et puis surtout, il faut le souligner, c'est très important. Moi, ce qui m'a fait découvrir ce répertoire, c'est la musique des compositeurs, en fait, que sont Béla Bartók.
Alors, Béla Bartók, il est très connu, mais les autres,
Alors, Zoltán Kodály, qui était son
élève... un peu moins connu.
Qui est un peu moins connu, mais qui était son grand ami, et sans lequel, je crois, Béla Bartók n'aurait pas fait...
Ne serait rien, alors, si vous avez...
non,
pas jusque-là.
C'est pas
mais
ça.
Bon.
En tant que compositeur, c'est pas la même chose, mais ils ont parcouru la Hongrie ensemble, en tant que collecteur, en fait, de répertoires traditionnels. Parce que jusqu'alors, jusqu'au début du XXe siècle et jusqu'à leur travail de collectage, la musique hongroise, c'était en fait c'était un peu un mythe, quoi. Parce que ce que nous connaissions, nous, de la musique hongroise, c'était finalement la musique des tziganes, la musique que les tziganes jouaient dans la cour des princes de l'Empire austro-hongrois. Pourquoi ? Parce que là, les princes austro-hongrois et en particulier les généraux d'armée avaient compris que pour recruter dans l'armée, les musiciens tziganes étaient extrêmement forts. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, les recruteurs, mais disons que pour enrôler des gars dans l'armée,
pour les
enthousiasmer, il y avait des petits groupes de musique. Cymbalum, une sorte de contrebasse et violon. Et c'était des tziganes. Et donc, ils se sont vus attribuer des rôles de plus en plus importants auprès de l'armée et de cette cour, finalement. Donc, la musique tzigane, c'est une musique qui est extrêmement virtuose, extrêmement ancienne et qui réunit en elle des tas et des tas d'influences. Donc, dire que la musique hongroise, c'était cette musique-là qui était jouée dans les cours, c'est drôle. Enfin, je trouve que c'est un chouette pied de nez à l'histoire, les tziganes, finalement, étaient représentants de cette musique nationale qui, en fait, n'était pas une musique nationale. Et d'ailleurs, peu importe, et tant mieux. Mais je crois que ce qui a été la motivation de Bartók et Kodály, c'était d'aller chercher dans les campagnes
de retrouver voilà. Du traditionnel c'est un peu ça. Plus profond.
Justement, voilà. On va écouter un petit son parce qu'il nous reste que 11 minutes sur les ondes de Radio Galère.
Il faut en profiter.
Un nouveau son exactement.
Alors,
pour
je peux le présenter avant peut-être.
Bien sûr.
Alors c'est une chanson populaire à la base, ça s'appelle Hey Tulipan, donc presque une comptine je dirais, une chanson très connue en Hongrie. Et Béla Bartók dans ses pièces pour piano, puisqu'il a été aussi pédagogue en développant des méthodes voilà, d'apprentissage de la musique, dans ses études pour la main gauche notamment pour les enfants, a fait un arrangement au piano de cette chanson qui s'appelle Hey Tulipan. Et nous nous sommes inspirés de son arrangement au piano, puisque donc là il y avait plusieurs voix, puisqu'il y avait plusieurs notes ensemble, pour en faire un arrangement vocal. Voilà.
Parfait, on va l'écouter. Et pour le coup, Christian,
Hey Tulipan, jusqu'à Tulipan, Hey Tulipan, 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 Tulipan.
Voilà, Tulipan sur le monde.
On ne peut dire
du
que
88.4. Christian, merci. Richard, peut-être une question, une réaction. Eh ben, n'hésitez pas à nous parler des albums aussi, l'album du 10 avril aussi, le concert.
Oui. Donc, moi, j'avais juste une question, mais alors qu'il n'y a aucun rapport, peut-être. Vous faites des musiques folkloriques. Il y a sur Marseille aussi des festivals de folklore. Est-ce que vous intervenez aussi dans ce style de festival ou pas du tout?
Nous, on fait des enfin, on est très ouverts. Donc, je dirais que, en tout cas, dans les musiques qui sont pratiquées et qui sont développées par notre association, qui sont transmises et créées, il y a des musiques traditionnelles, il y a des musiques anciennes, il y a des musiques contemporaine aussi, de l'improvisation. Je dirais que le terme de folklore, ça, si vous l'utilisez, peut-être c'est dans le sens qui serait exclusivement dédié à des...
C'est réducteur un peu, c'est ça.
Oui, ou à la conservation de... Enfin, le folklore, en fait, alors moi, en fait, j'adore ce mot. Il vient de folk... Enfin, le mot folk vient de peuple, et donc pour moi, c'est populaire. Mais il y a eu, à un moment donné, dans l'appellation folklorique, quelque chose qui était de l'ordre un peu du muséal, en fait. Et quelque
oui, voilà,
chose qui
ça.
Vient... voilà, on s'habille en... Moi, quand j'étais petite, dans
en
mon village, on s'habillait en petite provençale pour aller danser. Voilà, à la kermesse, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, pour parler du chant occitan ou de musique d'Occitanie, puisque c'est notre ère géographique et culturelle là, ici, maintenant, peu importe le costume, en fait, ces musiques sont vivantes, en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Après, il est vrai que, voilà, comme vous me demandiez, moi, j'ai pas de lien... personnel, familial, culturel avec la Hongrie, mais simplement il y a des compositeurs qui nous invitent à venir découvrir certaines musiques. Et pour moi, la polyphonie les polyphonies de Bartók, parce que pour le coup là, la polyphonie hongroise, on peut en parler du point de vue de la musique écrite et savante. Bartók et Kodály et Ligeti ont développé une œuvre, mais surtout les deux premiers, une œuvre chorale extrêmement importante, qui fait que partout dans le monde, dans les chorales même classiques, on chante ces musiques-là.
On reprend ces musiques-là.
Et en fait, pour moi, c'était une invitation, en fait, ensuite, puisque ces compositeurs ont été aussi de grands collecteurs, à aller écouter les musiques dont ils s'étaient inspirés, à les découvrir, à les apprendre, à les sentir, et à m'amuser, à nous amuser à découvrir les traces qui restaient dans leurs œuvres et les mettre en regard les unes et les autres. Voilà, c'est en tout cas depuis la naissance du trio Nota, l'idée n'est pas de faire un florilège ou un, comment dire, un, des disques ou des concerts où on chanterait des répertoires qui nous plaisent parce qu'on les trouve beaux, etc., mais qui seraient variés, mais toujours d'avoir, alors c'est pas que c'est pas bien de le faire, pourquoi pas, mais en tout cas notre ADN, c'est d'aller chercher la relation entre les musiques écrites et les musiques traditionnelles.
Alors vous allez avoir donc plusieurs espaces de disponibles dans votre tournée, dont un sur Marseille, dans une salle qui s'appelle Musica 13.
Voilà, à la salle Musica 13.
Qui se trouve donc à la rue Grignan.
Rue Grignan, 53 je crois, 55, je ne sais plus.
Attendez, je n'ai pas l'adresse exacte, mais voilà, en tout cas, c'est une salle qui fait 220 mètres carrés quand même.
Oui, c'est une qui est salle qui a une très belle acoustique.
200 places. Oui. Et pour réserver éventuellement, c'est ce qu'il faut.
Alors,
réserver,
faut
où
aller
faut-il
sur
aller
le site internet de la salle Musica 13. Il y a donc l'agenda, dans la programmation, le trio Nota, un petit clic sur billetterie. Et voilà, c'est à 20h30, jeudi 10 avril. Et c'est le premier concert de sortie de cet album.
Donc c'est une première, c'est ça, hein, il faut le signaler. Donc il
oui.
ne faut pas la rater. Ben oui.
Alors c'est une très très belle salle. Moi je ne la connaissais pas, je l'ai vue sur... sur Internet, j'étais surpris parce que les... je ne sais pas comment vous dire...
Elle a été vraiment conçue pour l'ensemble Musica 13, qui est un ensemble à 12 voix dirigé par Roland Erabedian. Voilà. Et c'est une salle et une compagnie qui existe depuis plus de 30 ans.
Voilà, qui est ancienne.
Voilà, et qui donc a ce lieu depuis un peu plus d'une dizaine d'années.
Il doit y avoir une sacrée acoustique.
Il y a une très belle acoustique,
parce
donc
que
ça va être très agréable de chanter là-bas.
J'ai vu qu'elle était conçue de telle façon que votre travail va se valoriser. Hein,
oui,
si
oui, il y a eu
j'ai bien vu.
Un travail de...
Si besoin, parce que je pense qu'en lui-même, il est déjà parfait.
Oui. Enfin bon, dans une belle salle, c'est quand même bien.
Tout à fait. Mais c'est même indispensable d'avoir une bonne acoustique pour faire sonner ce type de répertoire, vu que c'est quand même un peu tout nu, quoi. Voilà. Alors justement, j'y viens. Je voulais dire qu'en plus, ce qui va être chouette pour ce concert du 10 avril, c'est que nous aurons avec nous Thomas Bourgeois aux percussions, puisqu'il apparaît sur trois titres de notre album et qui nous fait le plaisir d'être avec nous spécialement pour ce concert. Ensuite... nous aurons aussi un concert le 26 avril à Hyères, à la Collégiale Saint-Paul, pour les gens qui sont un peu plus du côté du Var. Mais là, effectivement, Thomas ne sera pas sur le reste de la tournée. On va aussi également jouer au Festival de la Voix à Châteauroux au mois de mai.
Voilà, donc vous commencez votre tournée nationale,
voilà,
pour le moment.
Et alors, à chaque fois, il faut se rapprocher de la salle pour avoir vos places.
Oui.
Ou...
Oui, 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 salle ou festival.
Il n'y a pas un endroit où on peut...
Alors nous, on n'organise pas notre billet, enfin on n'organise pas cette billetterie-là, donc il faut que, oui, les gens qui sont intéressés doivent aller sur le site de Musica 13 ou téléphoner, tout simplement. Hein.
Voilà.
Voilà. J'en profite aussi, je voudrais présenter le label qui... Enfin, et les partenaires qui ont permis la réalisation de ce disque. Alors tout simplement, je voulais saluer l'espace culturel de Chaillol dans les Hautes-Alpes, AGAP, qui avait soutenu le trio Nota en résidence et en concert et qui nous a fortement incité et soutenu à faire ce disque dans de bonnes conditions. Nous avons enregistré dans un studio dans les Alpes, en pleine nature, un endroit magnifique, la Grange des Villarons à Manteillé. Chez Pascal Perrault, je le salue. Notre ingé son, Benoît Martin, a fait un travail formidable d'enregistrement et d'édition. Nous avons eu ensuite comme aide et partenaire l'ADAMI pour réaliser ce projet et la région sud avec une carte blanche aux artistes. Et nous sommes donc chez le label L'Empreinte Digitale. Je salue Catherine Payon qui a tout de suite répondu présente et accepté d'éditer ce disque et de prendre ce projet dans sa collection. Et qui signe la couverture également de l'album puisqu'elle est photographe. Et que donc vous avez sur la couverture du disque un magnifique paysage un peu sombre, mais avec un magnifique lever de soleil à gauche, à l'est. Et c'est pour nous une belle image qui reflète un peu l'état d'esprit. Je disais que cette musique hongroise, elle aime à y a de la beauté dans la tristesse, il y a de la beauté dans la plainte ou dans l'expression de la douleur, comme une catharsis. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que chanter ces répertoires, ça procurait un plaisir et une joie intense, et que c'est pour mieux dépasser justement cette douleur, la douleur de l'exil. C'est des chants qui viennent aussi de peuples qui ont été déplacés d'une région du monde qui a été coupée.
Oui, c'est une histoire tourmentée.
C'est une histoire très tourmentée.
Oui.
Et le répertoire vient dépasser et magnifier et sublimer en fait ces conditions-là. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est si touchant, en fait.
Ce disque, on le trouve dans toutes... On peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver de partout. Voilà,
on est bien d'accord. Du 4 avril, normalement, vous pouvez aller réclamer votre disque.
Voilà, donc allez le réclamer. Peut-être dans les endroits où vous jouez aussi, peut-être on peut se le procurer aussi.
Oui.
C'est possible, ça sera certainement possible, je pense.
Au concert, nous aurons des disques à la sortie.
Voilà, donc,
bien sûr.
Alors, ce concert représente à peu près, si j'ai bien compris, à peu près 18 morceaux.
Oui. Tout à fait.
Donc, qui sont également en partie ou en totalité dans le...
On va chanter l'album, peut-être même
la
un
compilation.
Peu plus. Parce que ce sont des morceaux, vous l'avez entendu, avec Tulipan dure 50 secondes, 53 secondes, je crois. Donc, ce sont des morceaux qui peuvent être pour certains assez courts. Alors, 18 morceaux, ça fait beaucoup comme ça. Mais disons qu'on a 1h10, 1h15 de concert.
Voilà ce qui est très bien. Je répète, si vous voulez, les salles.
Bon, on va devoir conclure.
Musique à 13.
On va devoir conclure, Richard.
Alors, la salle Musique à 13, je vais juste te donner 53 rue Grignon, le téléphone 04 91 00 91 31. Voilà, vous avez le numéro de la salle. Et n'hésitez pas donc à chercher soit sur internet Musique à 13, soit téléphoner.
Voilà. Transphonie aussi peut-être.
Oui,
encore,
je voulais
Julien,
en dire un mot.
Un petit
mot. Je voulais juste
vraiment
dire
rapidement, on est vraiment gêné par le temps.
Alors j'ai la chance de participer à une grande aventure musicale qui s'appelle Transphonie de Marseille. J'étais donc là il y a un mois pour en parler avec Maura, ma collègue, et c'est elle qui a initié ce projet. Une composition de Daniel et d'El Monaco, une espèce d'allégorie et une fresque un peu folle que je vous invite à découvrir le 22 avril à l'espace Julien.
Exactement, voilà. Mardi 22 avril, Transphonie. Merci beaucoup Cathy Delhomme. On n'a pas pu écouter le troisième son, mais le temps nous manque évidemment. C'était un vrai plaisir de vous
pour
avoir.
Pour le prochain passage, voilà.
On reste en contact et on le rappelle, donc 4 avril la sortie de l'album. Le 10 avril également.
Le concert à Musique à 13.
Tout à fait, le concert de soutien à Musique à 13.
Et le 22 avril.
Et le 22 avril, l'espace Julien pour Transphonie.
Je vous remercie.
Mais avec grand plaisir.
C'est un plaisir pour nous.
Pause musicale qui va permettre de faire la transition avec le chant Maoutini. C'est un chant palestinien avec des voix d'enfants qui chantent sur une plage. On va donc parler de la Palestine et de cette grève de la faim qui a été entamée par des citoyens, des soignants témoins aussi, qui sont allés à la bande de Gaza il y a quelques mois, et qui vont nous tramer, qui vont nous donner un petit peu tous ces éclairages sur les ondes du 81.4. Et c'est donc Maoutini sur Radio Galère. Merci Cathy Delhomme.
Merci à
beaucoup.
Vous tous.
Au plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Thank you. Radio Galère 88.